France Inter, journée d'hommage à Jean-Paul Belmondo. Jérôme Cadet.
On va continuer de parler de Jean-Paul Belmondo ensemble, vous faire vivre jusqu'à 18h cet hommage national qui lui est rendu cet après-midi aux Invalides, émission spéciale sur Inter qui bouleverse ses programmes. Nous écouterons l'éloge funèbre prononcé par le président de la République Emmanuel Macron peu avant 17h. Nous donnerons la parole aux personnalités qui sont présentes sur place, du monde de la culture, du monde du sport, parole également à tous ces amoureux de Bébel qui se rassemblent autour des Invalides depuis très tôt ce matin. Quelques centaines en ce moment devant les Invalides. Un millier ont pu pénétrer à l'intérieur de l'enceinte et beaucoup d'autres sont donc dehors, devant les écrans géants. On retrouvera également Simon Le Baron, Corinne Pellissier à l'intérieur des Invalides. On va les retrouver dans une minute. D'abord, je vous donne la parole. Laurent Delmas, merci d'être avec nous cet après-midi. Monsieur Cinéma à France Inter, hommage national à Jean-Paul Belmondo, aux Invalides, dans cette enceinte militaire, le guignolo aux Invalides, ça leur aurait fait sourire ?
Oui, je crois que ça leur aurait fait sourire. Ça leur aurait peut-être plu également, parce que bon, il faut rappeler qu'il était grand officier de la Légion d'honneur, grand officier dans l'Ordre National du Mérite, et commandeur des Arts et des Lettres. Donc, quelque part, la République lui avait déjà largement prodigué sa reconnaissance, en quelque sorte. Alors bon, on n'est pas obligé de finir aux Invalides, mais en même temps, je pense qu'il en serait oui, à la fois amusé, vous avez raison, et fier, et j'ose une interprétation, c'est que pour lui, ça serait certainement une petite revanche sur ce que n'a pas fait vraiment la République pour son père, pour Paul Belmondo, le sculpteur, avec lequel, évidemment, pour lequel il avait une grande admiration, et avec qui la République a été un peu chiche en termes de reconnaissance et d'honneur, notamment au moment de sa mort. Donc je pense qu'on peut dire que de là où il est, Jean-Paul Belmondo doit aussi apprécier cette reconnaissance presque familiale pour le nom Belmondo et en tous les cas. Et puis il faut savoir que les gendarmes et l'armée, des militaires, lui ont rendu hommage en disant « Ah, il n'a jamais dégradé l'image du soldat et du gendarme ou du flic. »
Voilà, le légionnaire des Morfalous qui va donc sortir par la cour d'honneur des Invalides. Vous parliez de la famille Belmondo, on en parlera dans quelques minutes puisque l'un de ses petits fils Victor prendra la parole tout à l'heure à 16h50. Ce sera sous vos yeux, Simon Le Baron. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dans la cour d'honneur des Invalides. La cérémonie va débuter d'ici 8 minutes, logiquement, ouais. Si l'ordonnancement et le timing est donc respecté. Quel est le scénario, si je puis dire, Simon, de cet hommage national ?
Alors d'abord, je vais vous parler de ce qui s'est passé déjà, avant que nous prenions l'antenne, Jérôme. On vient de voir une vidéo, un montage d'une trentaine de minutes des plus grandes scènes, des plus grandes répliques de Jean-Paul Belmondo qui a été projeté sur deux écrans géants ici dans cette cour d'honneur des Invalides. Il y a eu des applaudissements, évidemment, après cette vidéo. Il y a eu beaucoup de sourires aussi, beaucoup d'accolades, beaucoup d'embrassades. Alors c'est pas très Covid, mais dans ces moments-là, que voulez-vous ? Il y a les amis de Jean-Paul Belmondo qui sont là. Il y a des Français aussi, un millier de personnes qui ont pu rentrer dans cette cour d'honneur des Invalides, une ambiance qui est à la vie, à la célébration de la vie et de la carrière de Jean-Paul Belmondo. La famille ne voulait pas une cérémonie plombante. Alors évidemment, on est ici aux Invalides, dans ce lieu solennel, donc c'est une cérémonie qui est cadrée. Dans moins de 10 minutes, dans 5 grosses minutes, le président de la République fera son entrée dans cette cour d'honneur des Invalides. Il passera en revue les troupes. Vous entendez d'ailleurs derrière moi les sonneries militaires. Emmanuel Macron passera en revue les troupes. Il y aura une Marseillaise. Le cercueil de Jean-Paul Belmondo, couvert d'un drapeau bleu-blanc-rouge, fera son entrée. Victor Belmondo prendra la parole pendant à peu près 5 minutes pour rendre hommage à son grand-père, avec à ses côtés 5 des autres petits-enfants de l'acteur. Et puis ce sera le discours vers 16h55 du président de la République. Cet éloge funèbre prononcé par Emmanuel Macron qui durera une vingtaine de minutes. Le cercueil sortira après une minute de silence, une nouvelle Marseillaise. Il sortira au son de Kimaï, cette célébrissime musique de Morricone du film Le Professionnel. Et puis, après la fin de cette cérémonie à 17h30, le cercueil de Jean-Paul Belmondo reviendra dans cette cour des Invalides, puisque la famille voulait une cérémonie populaire. Donc à partir de 19h30, les Français qu'ils souhaitent pourront venir se recueillir sur le cercueil de Bébel.
Et on a entendu derrière vous, Simon Le Baron, quelques notes de la Marseillaise qui sera jouée tout à l'heure. Corinne Pellissier à vos côtés à l'intérieur de cette cour d'honneur des Invalides. Bonjour Corinne.
Bonjour.
L'idée c'est de garder, je suppose, dans cette cérémonie de la légèreté, du sourire que représentait Jean-Paul Belmondo, mais en même temps dans un cadre qui est très strict, c'est un hommage.
Ah voilà, alors on a eu effectivement un premier bon goût du déroulé, de ce à quoi va ressembler cette cérémonie, dans ce lieu qui est très protocolaire, très éloigné finalement de la personnalité de Jean-Paul Belmondo, lui qui adorait faire des blagues, qui ne se prenait jamais au sérieux. La famille avait demandé quelque chose de très simple, on aimerait donc que cet hommage lui ressemble, avec pourquoi pas une arrivée par exemple du cercueil ou même du président de la République en hélicoptère, un peu comme lors des JO de Londres en 2012 avec Daniel Craig et le sosie de la reine d'Angleterre. Évidemment, tout cela relève du fantasme. On s'attend à quelque chose de beaucoup plus cadré. Même si on a croisé quand même dans le public des gens qui étaient déguisés, un homme par exemple avec un haut de forme et qui portait, comme dans le Guignolo, le fameux caleçon à pois rouge de Jean-Paul Belmondo, qui n'est pas le premier sous la présidence d'Emmanuel Macron à avoir son hommage ici dans la cour des Invalides. On peut rappeler qu'il y avait eu en 2017 Jean d'Ormesson, l'année suivante Claude Lanzmann, Charles Aznavour. L'hommage à Charles Aznavour auquel avait assisté Jean-Paul Belmondo, il était là, ils étaient proches. Hommage aussi à Jean Daniel en 2020. Il y a eu aussi, bien avant eux, le commandant Cousteau, Pierre Schoendoerffer. Ici, aux Invalides, il y a évidemment cette dimension qui est très solennelle. L'hommage à la nation, le symbole est très fort, mais il y a aussi un côté assez pratique, puisqu'il a fallu organiser cette cérémonie de manière très très rapide. On a eu seulement quelques jours. C'est un lieu qu'on connaît, où on a l'habitude d'organiser ce genre d'hommage. Et puis, il y a peut-être aussi, partant de Covid, une dimension un peu pratique, la façon de canaliser le public. Tout le monde est rentré avec un pass sanitaire. On peut imaginer qu'il serait assez difficile d'organiser un hommage populaire un peu comme celui qui avait été fait pour Johnny Hallyday en 2017 avec une grande ferveur dans la rue. En tout cas, beaucoup d'invités du monde de la culture, des proches et la famille qui ont pris place sous une petite tente à l'abri des regards. Voilà, 5 rangées de fauteuils.
Merci à vous Corinne Pellissier. J'ajoute que le Premier ministre Jean Castex et la ministre de la Culture Roselyne Bachelot attendent en ce moment même le président de la République Emmanuel Macron qui sera là d'une minute à l'autre pour le début de cet hommage à 16h30. Les invités évidemment sont déjà installés dans les tribunes à l'intérieur de cette cour d'honneur. Ce qui nous frappe, Delphine Evenou, vous êtes sur place, vous à l'extérieur, vous les avez vus arriver ces invités. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a des invités du monde de la culture, j'en ai dit un mot, il y a des ministres, il y a des acteurs, il y a des personnalités médiatiques, il y a aussi des personnalités du monde du sport. Bonjour Delphine.
Bonjour, oui, alors Brahim Asloum, évidemment le boxeur, on connaît l'amour de ce sport de Jean-Paul Belmondo, et puis les amis de toujours, on a vu Pierre Vernier, ami de la bande du conservatoire, qui se retrouve désormais seul de cette bande avec Françoise Fabian, les partenaires aussi d'une carrière aux plus de 80 films, notamment ceux de Claude Lelouch. On a vu Richard Anconina, à qui il donnait la réplique dans Itinéraire d'un enfant gâté, Michel Boujna également, qui a partagé l'affiche dans Les Misérables en 95, et puis Albert Dupontel, que Bébel disait admirer. Les deux hommes avaient joué ensemble sous la direction de Blier dans Les Acteurs en 99. C'était leur première rencontre et Albert Dupontel devait tuer Belmondo. Et puis il y a Les Héritiers, la nouvelle bande des petits jeunes que Bébel aimait bien inviter à déjeuner quand il trouvait qu'ils avaient du talent. Guillaume Canet, dont Belmondo est l'idole, Gilles Lelouch aussi, pour qui Bébel est un parrain. Bébel qui est d'ailleurs allé le voir à Marseille lors du tournage de Bac Nord. C'était à l'été 2019. Ils dînaient ensemble. Le soir, ils partageaient même le même hôtel. Et puis, évidemment, on a vu Jean Dujardin, l'héritier naturel. Les deux hommes sont souvent comparés. Ils ont joué une fois en 2008 dans Un homme et son chien. Et puis, Dujardin disait qu'il s'était inspiré de Belmondo pour jouer son rôle dans OSS 117. Tous se sont réunis ici autour de la famille de Jean-Paul Belmondo pour saluer une dernière fois la joie de vivre, l'humour, l'optimisme de l'acteur.
Merci à vous Delphine Evenou. Je crois que c'est Jean Dujardin qui disait avant cet hommage, il faudra rire aussi, ne pas oublier de rire en cet après-midi d'hommage à Jean-Paul Belmondo. Je ne sais pas quel est l'état d'esprit du public qui est autour de vous. Rémi Brancato, bonjour, vous êtes devant cet hôtel des Invalides. Est-ce qu'il y a du monde? Première question. Et puis, quelle est un petit peu la tonalité et l'état d'esprit des amoureux de Bébel qui sont à vos côtés?
Alors il y a du monde modestement, dirons-nous, quelques centaines de personnes qui sont recueillies, qui ont regardé, j'allais dire quasi religieusement, les différents extraits de films qui ont été diffusés tout à l'heure et dont Simon le Baron parlait à l'instant. Ces extraits de films qui vous ont rappelé des souvenirs. Yolande, rappelé, bonjour.
Bonjour, qui m'ont rappelé des souvenirs d'enfance. Quand je suis arrivée, donc je suis née en Tunisie, je suis arrivée en France, il jouait dans le film donc le singe, un singe en hiver avec Jean Gabin, et ma grand-mère chantait, aimait beaucoup la chanson Nuit de Chine, Nuit d'amour, Nuit.
Et ce sont des films qui ont marqué toute votre vie.
Qui ont marqué mon enfance et après mon adolescence avec Borsalino, et ensuite lorsque j'étais adulte, Peur sur la ville, L'As des As, Cadavre exquis, voilà.
C'est ce qui explique aussi que Jean-Paul Belmondo ait autant marqué le public, c'est que ces films ont aussi accompagné la vie de tout un chacun.
Absolument, et depuis 60 ans, pas depuis 20 ans, ni dans 30 ans, 20 ans, 60 ans, c'est énorme. C'est un monsieur qui était très proche du public, je l'ai rencontré rue Marbeuf, il était tout à fait normal, il méprisait pas le public, ce qui arrive souvent malheureusement à certaines vedettes qui sont des vedettes et qui ne veulent pas avoir affaire au public, et lui il appréciait.
Et c'est pour cela que vous venez lui rendre hommage aujourd'hui.
Absolument, hommage et avec respect.
Merci beaucoup Yolande, avec quelques centaines d'autres personnes. La pelouse continue à se remplir, mais effectivement l'épidémie joue peut-être son rôle dans l'affluence ici, puisque le pass sanitaire est aussi exigé sur cette pelouse.
Un mot des générations qui sont autour de vous, Rémi, est-ce qu'il y a des jeunes, des plus âgés, à quoi ressemble cette foule finalement ?
Elle est assez bigarrée en effet, et il y a effectivement toutes les générations. Yolande nous parlait de sa jeunesse dans les années 70. D'autres n'ont pas connu cette époque. J'ai croisé pas mal de trentenaires qui me racontent avoir grandi en regardant les films de Jean-Paul Belmondo. L'As des As, pour commencer, une culture cinématographique, me disait tout à l'heure l'un d'eux, un jeune trentenaire qui est venu, qui tenait à être ici pour rendre hommage à Jean-Paul Belmondo. Parce que c'est aussi une histoire de transmission. Souvent, ce sont les parents qui ont fait voir à leurs enfants ces films iconiques du magnifique.
Rémi Brancato avec ses amoureux de Jean-Paul Belmondo va vous retrouver tout au long de cette émission spéciale. Est-ce que le président de la République est arrivé, Simon Le Baron, vous qui êtes dans la cour d'honneur des Invalides?
Pas encore, Jérôme, mais il va faire son entrée dans quelques secondes. On voit effectivement le Premier ministre Jean Castex et la ministre de la Culture Roselyne Bachelot qui attendent le président de la République à l'entrée de cette cour d'honneur. Un mot de la tonalité peut-être attendue du discours du président de la République. Il en a donné une idée dans le communiqué qu'il a publié au soir de la mort de Jean-Paul Belmondo. Il a insisté sur le caractère, je dirais, universel de cette star française, c'est-à-dire cet homme, cet acteur qui rassemble les Français à travers les générations, à travers aussi les classes sociales. Tout le monde a son Belmondo. Il y a le Belmondo de la Nouvelle Vague, à bout de souffle, Pierrot le Fou. Il y a le Belmondo des grandes comédies d'aventure, comme Le Magnifique, L'Homme de Rio. Il y a le Belmondo des chefs-d'œuvre universels que, j'allais dire presque tous les Français ont vu, comme Un singe en hiver de Verneuil. Vous savez que les hommages solennels, les hommages nationaux comme cela, c'est toujours l'occasion de parler d'un moment d'un pays. Et dans ce moment où le pays se déchire, est fracturé sur beaucoup de sujets, Emmanuel Macron a à cœur d'insister sur le caractère, je dirais, unificateur, pardonnez-moi,
rassembleur.
Ce mot qui est pas très joli, rassembleur. Voilà, merci Jérôme, rassembleur de Jean-Paul Belmondo. Tout le monde a son Belmondo. Et en ces temps où la France se déchire, eh bien c'est bien d'avoir des figures qui nous rassemblent aussi.
Je rebondis sur ce que vous nous dites, Simon Le Baron, Laurent Delmas, Luis Fernandez est là, ancien joueur de l'équipe de France de football, Bob Sinclair, le DJ qui s'est inspiré d'un des personnages de Jean-Paul Belmondo pour trouver son nom de scène, Christophe de Chavannes, Jean Dujardin. Il faut Jean-Paul Belmondo pour rassembler de telles personnalités?
Certainement, oui. Je retiens de ce qui vient d'être dit, l'universalisme au sens plein du terme, parce que c'est aussi un deuil qui est ressenti à l'étranger. On a vu des couvertures de presse tout à fait importantes au Japon, en Chine, aux États-Unis. C'est peut-être une dimension qu'on n'a pas forcément toujours en France, évidemment, mais alors qu'il n'a pas fait en plus de carrière internationale au sens propre du terme, et pas de carrière américaine, mais en revanche, il avait aussi un statut comme ça, effectivement universel, en tout cas mondial, d'acteur français, et très très français, on peut dire. Voilà, c'est ça qui le caractérisait certainement aux yeux de l'étranger.
Corinne Pellissier, vous êtes à l'intérieur de la cour d'honneur des Invalides. Est-ce que la presse étrangère est là aussi? Est-ce qu'il y a essentiellement la presse française, Corinne, beaucoup de journalistes? Est-ce que cette dimension internationale ressort?
Oui, beaucoup, évidemment, beaucoup de personnes sont intéressées ici par le profil hein, de ce, la bonhomie, la joie de vivre de ce qu'incarnait Jean-Paul Belmondo, qui a eu un vrai succès d'audience hein, cette semaine. Plusieurs de ses films ont été rediffusés à la télévision. Rien que mercredi soir, il a fait 4 millions de téléspectateurs pour Le Professionnel, dont on attendra tout à l'heure la musique en sortie de cérémonie. Et c'est à lui seul 130 millions de spectateurs cumulés au cinéma, plus les rediffusions télé, plus le catalogue Netflix. Donc c'est dire hein, si en 50 ans de carrière et 80 films, il a mobilisé et suscité l'attention du public en France et aussi à l'étranger.
Emmanuel Macron, le président de la République, merci Corinne. Emmanuel Macron vient d'arriver dans la cour d'honneur des Invalides, Simon Le Baron.
Oui, absolument. Le président de la République qui vient de saluer le Premier ministre et la ministre de la Culture. Il va passer en revue les troupes dans quelques instants. Il y a la garde républicaine qui est là, qui jouera la Marseillaise, l'orchestre de la garde républicaine qui est au garde à vous à l'heure où je vous parle. Il y a la Légion étrangère, il y a la Marine aussi qui est représentée. Emmanuel Macron va passer en revue ses troupes. Le silence s'est fait dans cette cour d'honneur des Invalides. Vous comprendrez pourquoi je parle un peu plus bas. On entend les sonneries militaires encore une fois derrière moi. Après la revue des troupes par le président de la République, il y aura une Marseillaise par l'orchestre de la garde républicaine et puis le discours, l'hommage à son grand-père de Victor Belmondo, qui est lui aussi acteur d'ailleurs, hein, c'est un héritier de Jean-Paul Belmondo dans cette famille. Il y aura les 5 autres petits-enfants de Jean-Paul Belmondo et puis ensuite vers 16h55 le discours, l'éloge funèbre du président de la République à Bebel, une vingtaine de minutes pour ce discours. Hein.
L'hommage du président de la République, l'hommage de la nation à l'un de ses plus grands acteurs, Jean-Paul Belmondo. Hommage officiel après lequel il a couru longtemps, Laurent Delmas, Jean-Paul Belmondo. Il y a eu l'hommage du public rapidement, mais devenir une figure nationale et reconnue, cette reconnaissance, c'est quelque chose qu'il a mis énormément de temps à obtenir.
Oui, parce que ça se décrète pas, parce que c'est des choses finalement un peu sensibles comme ça, qui se font au fil des ans avec un statut qui monte progressivement. En même temps, il y avait chez lui une sorte, il avait été adoubé quand même hein, déjà bah, par la nouvelle vague, donc par un phénomène tout à fait national, par aussi des anciens comme Gabin, quand Gabin avait des mots extraordinaires de tendresse et de
qui était lui-même un monument national.
Mais exactement, donc il y avait une transition, il y avait le passage du témoin d'un monument à un autre presque hein, quand Gabin disait du bien de Belmondo, ça voulait tout dire dans la bouche de Gabin, qui n'était pas très très généreux forcément avec ses autres confrères et collègues. Donc c'était très significatif. Et oui, le statut est venu, avec en plus, on en a beaucoup parlé cet an dernier, mais avec en plus la figure montante à côté de Delon. C'est-à-dire, il y a deux monuments nationaux qui sont montés ensemble, voilà, avec en opposition, en complémentarité, quand c'est Borsalino, en opposition quand il faut faire un peu de buzz et de presse. Mais en tous les cas, là aussi, il y a eu la montée de deux acteurs très 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 différents, l'un qui fait la gueule, l'autre qui sourit. Et c'est sur cette opposition que là, ça s'est bâti, évidemment, cette dualité. Mais deux monuments nationaux ensemble qui sont montés, oui, comme ça, progressivement au fil des ans.
Et donc l'hommage à Jean-Paul Belmondo qui débute en ce moment dans la cour des Invalides, Emmanuel Macron devant la garde républicaine qui vient de jouer la Marseillaise, devant les Invalides sur l'esplanade, quelques centaines de personnes et notamment des jeunes, Rémi Brancato.
Oui, et toutes les générations sont rassemblées ici sur cette pelouse pour assister à cette cérémonie alors qu'Emmanuel Macron passe en revue les troupes dans la cour d'honneur des Invalides. Ici, je suis en compagnie de Loïc qui n'a pas encore 30 ans et qui pourtant, vous êtes pourtant un fan de Belmondo.
Tout à fait, bonjour Rémi. Donc fan de Belmondo depuis mon enfance où mon père m'avait enregistré mon premier Belmondo, L'As des As, que j'ai après pu regarder en boucle.
C'est une histoire de transmission.
Exactement, oui, une histoire de transmission. Voilà, des films qui l'ont marqué quand lui, il avait mon âge et qui après m'ont marqué moi, Les Grands Policiers, le Professionnel, le Marginal, des films qui vraiment nous touchent tous. Toutes les générations. Oui.
Et vous disiez justement qu'il n'y a pas que des seniors ici. Il y a aussi des gens qui, comme vous, des jeunes, n'ont pas connu l'époque Belmondo.
Oui, tout à fait. Je vois qu'il y a même plus de jeunes que d'anciens. Et ça s'explique aussi parce que les films de Belmondo ressortent régulièrement, notamment sur les plateformes de streaming. Et on peut tous les revoir, ce que je fais moi aussi. Un bon Belmondo. Des fois, on oublie le film, mais on sait que c'est un film de Belmondo et on se régale à chaque fois.
Voilà, toute une génération qui redécouvre Belmondo comme Loïc à mes côtés et qui lui rend hommage ici sur la pelouse de l'Esplanade des Invalides.
Voilà, et le succès des audiences télé, hein, Corinne Pélissier nous le rappelait il y a une minute, rappelle l'attachement du public et donc du jeune public également à cette figure qui est Jean-Paul Belmondo, qui est d'une certaine façon son visage dans la cour des Invalides où vous vous trouvez, Simon Le Baron, le visage de Jean-Paul Belmondo, cette photo qui trône à l'intérieur de la cour, Simon.
Oui, c'est vraiment une très belle photo. C'est une photo de Jean-Paul Belmondo, je dirais âgé de 75-80 ans. Il a un béret gris sur le crâne, il a cette barbe blanche et puis il a surtout ce sourire incomparable. Il a ses rides qui lui donnent un air très souriant, très amable, très aimable, très affable au coin des yeux. Il est bronzé, ce bronzage éternel qu'on lui connaît. C'est vraiment une très jolie photo qui a été fournie par la famille de Jean-Paul Belmondo et qui dit mais finalement ce qu'on entend depuis des jours dans la bouche de ceux qu'il aimait, de ceux qu'il connaissait, c'est-à-dire qu'il était toujours joyeux, toujours positif, il ne disait jamais du mal de qui que ce soit, il prenait toujours la vie du bon côté malgré les épreuves qu'il a eues lui aussi dans sa vie personnelle. C'est vraiment une très jolie photo qui est projetée de part et d'autre de cette cour des Invalides sur deux écrans géants. Le président de la République est en train de passer en vue les troupes, il vient de passer en vue les troupes, Emmanuel Macron, il va aller prendre place aux côtés des ministres et des officiels qui sont là dans ce public de la Cour d'honneur des Invalides. Il y a le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti par exemple, il y a le Premier ministre, on l'a dit, il y a l'ancien président de la République François Hollande que je vois qui est juste en dessous de nous. Nous nous trouvons dans la coursive de cette Cour d'honneur des Invalides et donc dans quelques minutes c'est Victor Belmondo, l'un des petits-enfants de Jean-Paul Belmondo qui va rendre hommage à son grand-père.
Avant de parler justement de la famille Belmondo rassemblée en cet après-midi sous le soleil de Paris et des Invalides, Laurent Delmas, un mot de cette photo, choix a été fait de montrer un Jean-Paul Belmondo âgé et pas le Jean-Paul Belmondo par exemple de la jeunesse éternelle d'À bout de souffle.
Oui, c'est vrai, c'est un choix de la famille. Donc il faut le respecter. Moi, je trouve que ça colle assez avec l'hommage national parce qu'il a une gueule de patriarche, quoi. Donc en fait, c'est ça son statut désormais. C'est une sorte de patriarche du cinéma français qui veille sur le cinéma français, peut-être de façon subliminale au moment où le cinéma français a tant besoin qu'on veille sur lui parce qu'il n'y a pas assez de monde dans les salles. Donc c'est peut-être ça le dernier message adressé ainsi au patriarche Belmondo avec effectivement cette casquette, cette barbe. Très sel et peu poivre, voilà. Donc effectivement un statut comme ça, oui, je dirais de veilleur, de guide et de figure extrêmement
bienveillante,
absolument ce qu'il était de toute façon quasiment depuis le début, hein, aussi. Alors la bienveillance ça vient encore plus avec l'âge, au début c'était plutôt, vous le disiez, plutôt joyeux, rigolard, etc., mais la bienveillance elle est là très vite et je pense que cette image là elle est très importante dans l'esprit des Françaises et des Français.
Avec les plus jeunes générations du cinéma français qui sont là rassemblées aussi autour de lui. Et dans les tribunes, vous trouvez tout proche, Simon le Baron, le cercueil de Jean-Paul Belmondo qui va entrer dans la cour des Invalides dans quelques instants maintenant.
Oui, dans quelques instants, porté par des membres de la garde républicaine, sous les yeux de ces officiels qui sont là, évidemment, ces politiques, on l'a dit, sous les yeux de la famille, bien sûr, de Jean-Paul Belmondo. Un millier de Français aussi ont pu prendre place dans cette cour d'honneur des Invalides. Et puis, vous l'avez dit, c'est vrai, Jérôme, les amis, les proches de Jean-Paul Belmondo, je vois juste en dessous de l'endroit où nous nous trouvons, il y a Jean Dujardin, il y a Gilles Lelouch, il y a Albert Dupontel, il y a Richard Anconina, toute cette bande du cinéma français dont il était vraiment le parrain, le patriarche. Il y a Nathalie Baye, il y a aussi des figures du monde du sport, on l'a dit, le boxeur Brahim Asloum, l'ancien joueur de l'équipe de France de football et du PSG, Luis Fernandez, qui racontent tous à leur manière, finalement, à quel point Jean-Paul Belmondo, encore une fois, rassemblait et était aimé de tous. Le cercueil de l'acteur va faire son entrée, effectivement, Jérôme, dans quelques instants, dans cette cour d'honneur des Invalides qui se recueille désormais au son des tambours de la garde républicaine.
Voilà, la garde républicaine, le recueillement autour de cette cour d'honneur des Invalides. On regarde le sol, on se croise les mains, on se souvient de l'image qu'on garde de Jean-Paul Belmondo. J'ai envie de dire un peu chacun la sienne, Laurent Delmas, selon qu'on est l'un de ses proches, selon qu'on est son petit-fils, selon qu'on est sa fille, selon qu'on est une acteur, une actrice qui a pu avoir la chance de jouer avec lui, un réalisateur, une réalisatrice qui a pu le diriger.
Bien sûr, et puis à notre modeste niveau de spectateurs et de spectatrices aussi, chacun son Belmondo. Il y a le Belmondo très très grand public, très populaire, du cinéma dit commercial, d'action, de la cascade, et puis le grand cinéma de auteur, hein. Il faut toujours avoir en tête quand même que Belmondo a démarré avec Godard, il a tourné pour Truffaut, il a tourné pour Louis Malle, pour Alain Resnais, donc Jean-Paul Rapneau, donc des grandes figures du cinéma français exigeant, de qualité, ce qui n'empêche pas d'être populaire. Voilà, à chacun son Belmondo, oui, et c'est effectivement ce moment-là qu'on est en train de vivre collectivement, c'est-à-dire un hommage, national, mais dans lequel finalement chacun apporte son regard sur Belmondo. Et on disait une fois de plus, je crois que la bienveillance du regard de Belmondo rejaillit sur nos propres regards et notre propre bienveillance, bien évidemment.
Et le cercueil de Jean-Paul Belmondo qui fait maintenant son entrée dans la cour d'honneur des Invalides, Simon.
Oui, toujours au son de ces tambours de la garde républicaine, il y a 10 membres de cette garde républicaine qui portent en effet au pas le cercueil de Jean-Paul Belmondo, cercueil qui est recouvert d'un drapeau tricolore, et puis juste derrière ce cercueil, il y a un dernier membre de la garde républicaine qui porte les insignes de grand officier de la Légion d'honneur qui avait été remise à Jean-Paul Belmondo, parce qu'on l'a dit, c'était un être complexe. Alors nous sommes tous des êtres complexes avec parfois nos contradictions. Jean-Paul Belmondo, c'était un homme éminemment populaire qui a eu une relation souvent compliquée avec les honneurs au cours de sa carrière. On l'a dit, ce César reçu très tardivement et qu'il n'était pas venu chercher. Eh bien, c'est vrai qu'il ne rechignait pas non plus à accepter ces hommages, ces honneurs qui lui étaient faits. Et à juste titre, effectivement, c'est un moment très solennel. On peut se dire qu'il ne colle pas vraiment avec ce qu'était Jean-Paul Belmondo dans le cœur des Français, mais c'était aussi ça. Il avait acquis une telle importance, Jean-Paul Belmondo, que finalement aujourd'hui il mérite cet hommage très solennel, cet hommage national qui lui est rendu dans cette cour des Invalides. Dans quelques instants, les membres de la garde républicaine vont poser le cercueil de Jean-Paul Belmondo avec ce drapeau français au centre de cette cour d'honneur.
Voilà le cercueil de Jean-Paul Belmondo porté par les membres de la garde républicaine qui avancent dans cette cour d'honneur, et des larmes évidemment du côté de la famille, notamment de Jean-Paul Belmondo qui est là rassemblé, certaines larmes cachées par les lunettes de soleil, d'autres qui sont à découvert. C'est un moment poignant bien sûr de cette cérémonie en ce moment que nous vivons sur France Inter. Corinne Pellissier, vous êtes vous aussi dans cette cour d'honneur des Invalides. La famille Belmondo est évidemment rassemblée, elle va jouer un rôle important dans cette cérémonie puisque c'est Victor, l'un de ses petits-fils, qui va prendre la parole dans quelques minutes maintenant.
Voilà, Victor qui a 27 ans, c'est l'un des trois fils de Paul avec Alessandro et Giovanni. Il prendra la parole parce qu'ils avaient ensemble une relation très proche. Hein. C'est la troisième génération d'artistes de la famille. Il avait décidé très très jeune d'emprunter la même voie que son grand-père, avait fait des études en ce sens. Hein. Il est même diplômé, il a un diplôme de scénariste de l'ESSEC. Il a déjà fait 8 films, révélés l'année dernière dans le film Envole-moi de Christophe Baratier, et on le verra très prochainement aussi dans le prochain film de Xavier Beauvois, L'Albatros. Il est une sorte de pilier de cette famille, très proche aussi avec son père Paul, qui avait réalisé un merveilleux documentaire il y a quelques années, en 2015, très intime, Belmondo par Belmondo, un road trip qui nous emmenait sur les différents lieux de tournage des films de Jean-Paul Belmondo, très émouvant de voir cette famille effectivement réunie ici cet après-midi. On parle d'une famille, mais en fait, Jean-Paul Belmondo, c'était la famille, mais les familles. On aura peut-être l'occasion d'y revenir dans quelques minutes.
Absolument, la famille qui s'approche et Victor Belmondo qui va s'exprimer dans quelques instants. Le cercueil est maintenant posé au sol, Simon Le Baron.
Oui, absolument, exactement au centre de cette cour d'honneur des Invalides. Les six petits-enfants de Jean-Paul Belmondo sont à la tribune et Victor Belmondo va s'exprimer dans quelques secondes.
Et nous allons l'écouter et puis ce sera à partir de 16h55 l'éloge funèbre prononcé par le président de la République. On écoute Victor Belmondo.
La France en général, là où il est, je suis sûr et certain qu'il sourit, comme toujours, et qu'il est pleinement heureux de cet hommage. Heureux aussi de voir à quel point les Français lui témoignent de leur amour, lui qui les aimait tant. Tout au long de sa vie, il n'a cessé de chercher le bonheur, mais surtout de le donner, aussi bien à sa famille qu'à tous les autres. À travers ses films, évidemment, mais aussi et surtout par ce qu'il était et restera, un soleil. Le soleil ne s'éteint pas. Il brille, il irradie partout, tout le temps. Lorsqu'il se couche, quelque part, il se réveille ailleurs. Et notre grand-père nous irradie, et nous irradiera toujours de son sourire, sa bonté et son extrême bienveillance. Il est un soleil éternel. Merci, papy, de nous avoir donné tant de joie. Merci d'avoir tant partagé ta positivité. Tu nous laisses remplis de ce bonheur immense. On pense à toi, on t'aime, et amuse-toi bien avec tes copains qui t'ont tant manqué.
Victor Belmondo, le petit-fils de Jean-Paul Belmondo, qui vient donc de s'exprimer au nom de la famille, moment poignant, entouré, Simon Le Baron, Victor Belmondo, des autres petits-enfants de l'acteur.
Oui, ils sont six, ces petits-enfants de Jean-Paul Belmondo. Il était très proche d'eux et effectivement, on vient d'entendre dans la bouche de Victor Belmondo cet hommage qui s'adressait au grand-père, finalement, le grand-père quasi idéal, on vient d'entendre ces mots, toujours positif, toujours dans la vie. Finalement, il a enseigné à ses petits-enfants qui viennent de s'exprimer, en tout cas au nom desquels Victor Belmondo vient de s'exprimer, il leur a donné cette positivité à toute épreuve, cette envie de croquer la vie, et c'est ce qu'on vient d'entendre finalement, un hommage à un grand-père comme les autres, d'accord, une star internationale, une icône française, mais avant tout un homme que tout le monde aimait, en tout cas personne. On ne trouve personne pour dire du mal de Jean-Paul Belmondo et on s'aperçoit aujourd'hui que dans la vie intime aussi, dans ce que vient de dire Victor Belmondo, eh bien c'était un homme bien, tout simplement.
Ses six petits-enfants et sa plus jeune fille Stella, donc côte à côte, presque à se toucher, hein, Laurent Delmas, Jean-Paul Belmondo qui était très proche évidemment de sa famille.
Oui, on disait, je parlais tout à l'heure de patriarche pour cette photo, bah, c'était un patriarche, c'est-à-dire effectivement, il y avait un côté comme ça, un peu famille italienne.
Chef de clan
Mafieux, oui un peu, voilà, au bon sens du terme bien évidemment, mais oui, beaucoup de, on l'a entendu, hein, beaucoup d'amour, quoi, c'est la l'émotion de Victor Belmondo, elle était particulièrement présente.
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale.
Et le Président de la République, Emmanuel Macron, qui s'exprime.
Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la maire de Paris, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, chère famille Belmondo, Mesdames et Messieurs. Jean-Paul Belmondo était de la famille. Frère, cousin, oncle, ami séducteur, père hors norme, héros aux mille visages, dont la carrière charrie mille vies, dans lesquelles nous retrouvons tous un peu des nôtres, et qui ont scandé six décennies de vie française. Mythologie d'une France heureuse, où la jeunesse prit tous les droits, des temps d'insouciance, puis des temps de doute. 6 décennies de cavalcade à nos côtés. 6 décennies de théâtre et de cinéma d'abord, où il embrassa tous les genres. La gueule que l'on voulait voir dans les salles obscures, la gouaille qui réchauffait les soirées télévisées des Français. Belmondo fut la figure qui transperça les styles, traversa les époques, cassa toutes les barrières. D'abord icône de la nouvelle vague avec Jean-Luc Godard, puis François Truffaut, star inégalée du cinéma français et populaire avec Henri Verneuil, Gérard Houry, Philippe de Broca, Jean Becker, Georges Lautner, Louis Malle, De Ré, Philippe Labro, Claude Lelouch et tant d'autres. Homme de planche avec Robert Hossein et Bernard Murat. Présence inoubliable des inclassables Jean-Pierre Melville, Alain René, Claude Sauté ou Claude Chabrol. Il fut tour à tour génial improvisateur et servant des dialogues sans égal. Interprète orfèvre, cascadeur hors pair, survolant Venise accroché à un trapèze héliporté dans le guignolo, domptant un tigre sauvage dans l'animal, cheminant suspendu à un fil d'acier entre deux immeubles dans un homme à Rio, mais là, toujours. Les jeunes premiers des années 50 pouvaient laisser place au film évré de la nouvelle vague. Belmondo était là. La couleur pouvait définitivement supplanter le noir et blanc. Belmondo était là. Hollywood pouvait briller. Ses vedettes conquérir l'Europe. Belmondo était là. Avec sa bande du conservatoire, Annie Girardot, Michel Beaune, Guy Bedos, Bruno Kremer, Jean-Pierre Marielle, Jean-Pierre Mocky, Claude Rich, Jean Rochefort, Philippe Noiret, et bien sûr Françoise Fabian et Pierre Vernier aujourd'hui à nos côtés, il ne cessa de se renouveler, se réinventer, et ce faisant, de conquérir les générations successives. Il est cette présence avec laquelle on vieillissait de film en film, de style en style, toujours le même, toujours changeant. Jean-Paul Belmondo a vécu à nos côtés cette vie française. Passeur entre Jean Gabin, Pierre Brasseur, quelques autres et les nouvelles générations, immortel non seulement par ses films, mais parce qu'il enseigna son art de la scène et du jeu à vous, Jean Dujardin, Antoine Duléry, Richard Anconina, Gilles Lelouch, qui était devenu sa nouvelle bande et qui est là, en cet instant, pour reprendre son flambeau. Durant ces décennies, Jean-Paul Belmondo n'embrassa pas seulement les époques et les genres. Il épousa la France. Lui qui, par tous ses rôles, traversa à grandes embardées l'histoire de notre pays. Le voici sous la régence mi-soldat, mi-bandit de Grand Chemin. Puis remarquable marié de l'an 2, au creux d'un arbre au petit matin avec celle dont il devait divorcer. Pilote, boxeur de la Der des Der dans l'As des As. Sublime soldat désabusé du week-end à Zuidcote. Chauffeur poids lourd voyou sur les routes du Sahel pour les 100 000 $ au soleil. Inoubliable légionnaire des Morphalous. Belmondo fut le visage de tous les bouleversements de nos 30 glorieuses. Sans prétention, sans jamais chercher à porter une thèse, juste être là, incarné. Un jour prêtre assiégé par les interrogations métaphysiques dans Léon Morin, un autre, industriel et patron de presse, héritier venu d'Amérique, critique acide de la société de consommation dans le corps de mon ennemi, espion superbe en mission au Mexique sous la légende bancale d'un écrivain perdu, flic, voyou, magnifique, toujours. Jean-Paul Belmondo habita la France. Tous ces lieux que sa démarche chaloupait, son sourire lumineux ne cesseront jamais de peupler. nos Champs-Élysées, sur lesquels fut abattue la tendre crapule d'Abou de Souffle. Ce château de Maintenon qui servit de décor à la fin de parcours du professionnel. Cette riviera azuréenne qui résonne encore de l'élégance du mi-flic mi-voyou. Ces rues de Marseille qui ne sont pas seulement celles de la Scoumoune, mais le théâtre dans lequel l'ombre de Bébel restera à jamais mêlée à celle d'Alain Delon, seul complice à sa mesure. Ce village de la Côte Fleurie et tant d'autres, et les trains qu'il emprunta, et les gares qu'il arpenta, Nantes, Besançon, Lille, Lisieux, ses rues, ses places, ses paysages de France. Nous aimons Jean-Paul Belmondo parce qu'il nous ressemblait. Géant parmi les géants, il était surtout cet homme parmi les hommes que décrivit son voisin d'enfance, Jean-Paul Sartre. On l'admire, il nous fait rire. Belmondo, c'est un peu nous en mieux. Un jour de tournage, Jean Gabin lui lança impromptu « Embrasse-moi, mec, t'es mes 20 ans. » Oui, Jean-Paul Belmondo était nos 20 ans. Ce jeune homme au nez cassé à qui l'on prédisait un sombre avenir, professionnel et affectif, et qui, à force de travail acharné, de culot illimité, de charisme enveloppant, finit par conquérir la France et séduire les plus belles femmes du monde. Jean-Paul Belmondo était nos 30 ans. Ce Don Quichotte des temps modernes capable de repousser les limites de l'ivresse en même temps que celles de la tendresse, tel un singe en hiver. Jean-Paul Belmondo était nos 40 ans. Ce commissaire aussi athlétique qu'intrépide que tous nous aurions rêvé d'être pour nous battre contre la peur sur la ville. Jean-Paul Belmondo était nos 50 ans. Cet entrepreneur à succès qui soudain choisit, dernière étape de l'itinéraire d'un enfant gâté, de larguer les amarres vers sa liberté et vers son destin. Il fut l'ami que chacun aimerait avoir. Lui qui jusqu'au bout convia son acolyte de toujours, Charles Gérard, Charlot, pour refaire le monde, chaque midi comme chaque soir. Il fut le fils que tous les parents rêvent d'avoir. Capable de refuser une statuette des Césars parce qu'elle n'avait pas été conçue par son père et de passer des heures au chevet de sa mère aveugle lisant des pages et des pages de ses romans préférés. Il fut le père exemplaire qui, pour élever ses enfants, n'hésitait pas à refuser tout tournage, en juillet comme en août. Et le grand-père que vous venez un instant avec émotion de décrire. Belmondo, c'est la tendresse. Parisien au sang italien, amoureux de la langue grand siècle autant que de l'argot parisien, tendre, turbulent, bourgeois boxeur, athlète incroyable, criblé de fêlures, Jean-Paul Belmondo raconte nos contradictions, nos failles. On aime sa solitude, son goût du risque, l'élégance de sa joie, son style. À chaque fois, il fit la chronique de nos vies. D'un monde triste et gai, tendre et cruel, réel et surréel, terrifiant et marrant, nocturne et diurne, solite et insolite, beau comme tout. Au fond, c'est peut-être Pierrot qui, dans sa douce folie maquillée de bleu, parlait le mieux de Belmondo. Cher Jean-Paul, pour toutes ces raisons, vous perdre aujourd'hui pour tant de Françaises et de Français, c'est perdre un immense acteur, un long moment enchanté de cinéma français et une part de nos vies. Et si malgré le chagrin, il nous faut sourire ce jour comme vous n'avez jamais cessé de le faire, c'est parce que nous savons que vous continuerez de nous accompagner. Qu'il nous suffira, pour retrouver votre gouaille solaire, de pousser la porte d'une salle de cinéma, d'allumer une télévision, un écran. Alors, à nouveau, la magie opérera. Et depuis le siège passager d'une voiture rose avec des étoiles vertes, nous pourrons crier que finalement, nous aimons la mer, nous aimons la montagne et nous aimons la ville. Rien à foutre. Sur la place du Trocadéro, nous vous suivrons dans une poursuite endiablée, au volant d'un cabriolet. Et dans les rues pluvieuses d'une station balnéaire normande, nous nous livrerons aux joies d'une corrida nocturne, d'un feu d'artifice improvisé, et nous entonnerons quelques chants arrosés d'un doux parfum de Yangtze Kiang. Et au creux de notre oreille, on entendra peut-être murmurer ces vers écrits par Cyrano que tant de fois vous avez incarnés et qui résonnent si fort en ce moment. Et puis mourir n'est rien, c'est achever de naître. Alors j'en suis sûr, votre visage s'illuminera de ce sourire inoubliable. Sans amertume, jamais. Sans plainte. Juste là. Et comme un glas, sonnera ce mot que tant de fois vous prononciez pour signifier tous les autres que vous ne pouviez plus dire. Voilà. Voilà. Adieu, Bébel. Vive la République. Vive la France.
Les applaudissements des invités, des personnalités, du public, nombreux publics, un millier de personnes dans la cour d'honneur des Invalides après l'éloge funèbre prononcé par Emmanuel Macron, éloge à Jean-Paul Belmondo, une douzaine de minutes de discours. Jean-Paul Belmondo était de la famille, a commencé le chef de l'État qui va s'incliner maintenant devant le cercueil de l'acteur qui a été posé au sol de cette cour d'honneur des Invalides. Les personnalités, le chef de l'État qui respecte maintenant une minute de silence à l'intérieur de cette cour d'honneur des Invalides. Beaucoup de solennité dans ce moment. Laurent Delmas, on va écouter la Marseillaise juste avant et puis on reviendra sur l'éloge de Emmanuel Macron dans une minute.
Oh,
effectivement, nous sommes toujours dans cette cour d'honneur des Invalides, la Marseillaise, dans la version de Berlioz, qui est jouée par l'orchestre de la garde républicaine. Dans un instant, le cercueil de Jean-Paul Belmondo va quitter cette cour d'honneur des Invalides. Le public s'en ira également. Et puis, la dépouille de Jean-Paul Belmondo reviendra dans cette cour d'honneur des Invalides, pour qu'à partir de 19h30, tous les Français qui le souhaitent, ceux qui suivent cette cérémonie à l'extérieur de l'hôtel des Invalides sur deux écrans géants qui ont été installés sur l'esplanade, et bien pour qu'ils puissent venir à leur tour rendre un hommage, se recueillir sur le cercueil de Belmondo. La famille, on l'a dit, voulait un hommage populaire. Évidemment, il y a un côté solennel, c'est le cas de tous ces hommages nationaux qui sont rendus ici aux Invalides, dans ce lieu qui est très lourd d'histoire, mais il y aura aussi ce soir à partir de 19h30 ce côté populaire, éminemment populaire comme l'était Bebel évidemment.
Voilà, et le public et les amoureux de Jean-Paul Belmondo qui sont là autour des Invalides, il y a ceux qui sont entrés également et qui applaudissent en ce moment, on les entend, pourront entrer et pourront saluer une dernière fois Jean-Paul Belmondo. Et Rémi Brancato, vous êtes aux côtés du public précisément, des gens qui vont tenter de rentrer très rapidement. Vous êtes à côté de Catherine.
Oui, absolument, je suis avec Catherine qui d'abord, avant de tenter de...
Rémi Brancato, qu'on va retrouver dans une minute aux côtés de Catherine et d'autres amoureux et amoureuses de Jean-Paul Belmondo qui ont suivi cet éloge avec beaucoup d'émotion. Est-ce qu'on vous a retrouvé, Rémi ? Est-ce que vous êtes avec nous ? On va vous retrouver dans une minute. Éloge funèbre donc prononcé par le chef de l'État, Laurent Delmas, mais pas lugubre. Je reprends les mots d'Emmanuel Macron qui avait presque le sourire aux lèvres. Malgré le chagrin, il nous faut sourire.
Oui, je crois qu'il avait pris la, me semble-t-il, une bonne tonalité, c'est-à-dire qu'il aurait été un peu presque déplacé de verser dans une sorte de ton un peu dramatique. Ça collait pas avec la personnalité de Belmondo, ça collait pas avec ce que venait de dire, d'ailleurs aussi le petit-fils qui a beaucoup insisté, Victor, sur le côté solaire. Je pense que le président de la République s'est mis dans ces rails-là en nous faisant retrouver les grands rôles de Belmondo et en refaisant surgir comme ça les grandes figures de sa filmographie. C'était certainement, je pense, le plus bel hommage, le plus efficace, et en disant combien Belmondo effectivement était proche des spectateurs et a accompagné en quelque sorte des décennies de vie française. Moi, je retiens cette belle citation de Sartre que je ne connaissais pas. Belmondo, c'est un peu mieux, un peu nous en mieux. Je trouve que c'est vraiment un très très bel hommage et que le président de la République a eu raison de mettre en avant cette citation du philosophe.
Et puis Simon Le Baron, on a entendu le chef de l'État, et c'est assez rare pour un président de la République, dire rien à foutre oui, en direct devant des centaines de milliers d'auditeurs, de téléspectateurs. Et merci à Jean-Paul Belmondo pour ça.
Voilà, vous admettrez qu'il fallait bien un Bebel pour qu'on puisse entendre un jour effectivement rien à foutre dans la bouche du président de la République, qui plus est dans la cour d'honneur des Invalides.
Alors que le cercueil est relevé.
À l'instant que vous entendez effectivement les amis de Jean-Paul Belmondo, sa famille, le public applaudit ce cercueil qui est en train d'être emmené par les membres de la garde républicaine. Effectivement, je vais vous citer tout de même, pour revenir sur le discours du président de la République, la citation complète. Hein, il n'a pas dû juste dire rien à foutre pour le plaisir, le président. Nous aimons la mer, nous aimons la montagne et nous aimons la ville. Rien à foutre. Voilà la citation complète.
C'est une contre-citation de À bout de souffle de Jean-Luc Godard.
On va écouter la sortie du cercueil de Jean-Paul Belmondo de la cour d'honneur des Invalides sur l'air du Professionnel, la bande originale du Professionnel.
Ennio Morricone.
Ennio Morricone. cette cérémonie, de cet hommage national à Jean-Paul Belmondo, le cercueil porté par la garde qui quitte petit à petit la cour d'honneur des Invalides, suivi par la famille, les applaudissements des personnalités, le monde de la culture, le monde politique, le monde du sport, et puis ce millier de personnes, d'amoureux de Jean-Paul Belmondo qui ont pu rentrer à l'intérieur de la cour des Invalides et dehors. Et dehors, vous êtes avec la foule, c'est quelques centaines de personnes qui sont là, qui sont venues assister à cet hommage. Rémi Brancato, je suppose que l'émotion est passée par-dessus les murs des Invalides.
Oui, absolument. Au moment où a retenti la musique d'Ennio Morricone ici sur l'esplanade des Invalides, on a senti la foule se saisir, cette foule qui avait applaudi à l'issue du discours d'Emmanuel Macron. Et Catherine qui est à mes côtés, Catherine, une Parisienne, fan de Jean-Paul Belmondo. Catherine, vous me le disiez à l'instant, cette musique, c'est magnifique, c'est beaucoup d'émotions.
C'est beaucoup d'émotions, mais ça nous donne aussi tout le sourire, ça nous rappelle Belmondo dans tout ce qu'il a été. Et ça nous donne la chair de poule, l'émotion, mais on lui dit au revoir et merci de tout.
Ça vous rappelle tous ces souvenirs cinématographiques qui ont traversé les âges, qui ont traversé les générations, comme l'a dit Emmanuel Macron dans son discours.
Exactement, dans les années 50 et surtout 60, 70, 50 peut-être un peu moins. Voilà. Et peut-être qu'il fallait aussi un peu plus parler de son théâtre, son retour au théâtre. Mais on le connaît tous et d'une façon très massive pour le cinéma, bien sûr.
Cette cérémonie, vous l'avez trouvée belle, cette cérémonie qui est en train de s'achever?
Sobre, les discours des petits-enfants, et je crois que c'était César, peut-être, je ne sais pas, enfin, le petit-fils, c'était Victor, pardon, qui est maintenant comédien. C'était très sobre, très familial, très raccourci, très sobre, aucune emphase. Et le discours de Monsieur Macron, parfait. Toute la cinématographie y est passée, beaucoup de références, beaucoup de petites allusions, de jeux de mots.
Et cette émotion pour finir. Merci beaucoup, Catherine.
Merci à vous. Au revoir.
Merci à vous, Rémi Brancato, avec cette foule qui continue d'applaudir à l'extérieur des Invalides et à l'intérieur. Et la dépouille, le cercueil qui est en train de quitter cette cour d'honneur des Invalides avec... des larmes, hein, les larmes de la famille du cinéma, Corinne Pellissier.
Absolument, oui, tout le monde debout en train d'applaudir le départ du cercueil. Il y a là tous les proches. On disait tout à l'heure, Jean-Paul Belmondo, c'était un homme de clan, c'était l'homme d'une famille, mais plutôt de plusieurs familles, car il y avait les proches, son petit-fils Victor qui a prononcé quelques mots tout à l'heure, très touchant, très émouvant, la voix étranglée. Et puis il y avait les copains, la bande du conservatoire, dont il était l'un des derniers représentants à ce jour. Et les héritiers sous nos yeux, Jean Dujardin, Gilles Lelouch, qui faisait partie des très proches, également aussi Jeff Domenech, qui a beaucoup applaudi la sortie du cercueil. Jeff Domenech, c'était le compagnon du confinement, le dernier par exemple à avoir déjeuné avec lui la veille de sa disparition. Ils avaient travaillé ensemble, bien sûr. On a vu dans l'assistance aussi Michel Drucker, l'autre ami qui était lui présent au moment de l'accident cérébral dont avait été victime Jean-Paul Belmondo, qui l'avait accompagné à la rééducation. On voit là en ce moment tout le monde se prendre dans les bras, s'embrasser, sans doute pour se raconter encore et encore des anecdotes autour de ces grands moments qu'ils avaient passés ensemble, en tout cas une belle cérémonie remplie d'émotions.
On a beau vouloir rire, ça n'est pas si simple, hein, Laurent Delmas, parce que voilà, il y a beaucoup de larmes aussi. Sans doute beaucoup s'étaient promis de ne pas pleurer, de garder le sourire jusqu'au bout. C'est difficile.
Oui, bien sûr, c'est le jeu, je dirais, de ce genre de dommage. On se laisse prendre par l'émotion collective, qui en plus est absolument sincère. Je pense, voilà, il n'y a pas là l'ombre d'une mise en scène, d'une affection particulière. Non, vraiment, il y a le témoignage de l'émotion brute.
Oui. Laurent Bourdon nous rejoint. Bonjour Laurent Bourdon.
Bonjour Jérôme,
de Jean-Paul Belmondo. Je vais vous donner la parole dans une minute, Laurent. Avant cela, on va retourner dans cette cour d'honneur des Invalides, Simon Le Baron. L'éloge funèbre du chef de l'État, assez court, 12 minutes. Et puis, voilà, ce message délivré, finalement, de la proximité de Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo était de la famille.
Oui, nous aimions Jean-Paul Belmondo parce qu'il nous ressemblait, a dit Emmanuel Macron. C'est vrai qu'on en parlait avant le discours. Il avait donné le ton, le président de la République, dans son communiqué qui a été publié lundi soir, quelques heures après la mort de Jean-Paul Belmondo. C'est effectivement sur ce caractère rassembleur, chef de bande et aussi aimé de tous les Français, quelles que soient les générations, quelles que soient les classes sociales, les milieux intellectuels. Chacun avait son bébel, on le disait, et c'est ce sur quoi le président de la République a insisté. Jean-Paul Belmondo a vécu à nos côtés ses vies françaises. On le disait, hein, les éloges funèbres, les hommages nationaux, c'est toujours un moment de parler, une occasion de parler d'un moment, d'un pays. Et bien, c'est ce qu'a fait le président de la République, ce côté rassembleur de cette icône française dans un moment où le pays se déchire. Mais effectivement, un discours court, une douzaine de minutes, sobre. Le président, on le sent, n'a pas voulu passer au-dessus de la figure de Jean-Paul Belmondo, qui plus est après les mots très émouvants de son petit-fils Victor Belmondo, qui a rendu hommage à son grand-père. Le président de la République n'a pas voulu en faire trop. Et juste un mot pour terminer, si vous me le permettez, Jérôme.
Allez-y, Simon.
Ces applaudissements, ces acclamations qu'on a entendues au moment où le cercueil de Jean-Paul Belmondo quittait cette cour d'honneur des Invalides, il y a eu des bravos comme à la fin d'une pièce de théâtre. Et finalement, dans ce lieu où nous vivons des moments très durs, très émouvants, des hommages à des victimes du terrorisme, à des militaires tués en opérations extérieures, eh bien, d'avoir un moment comme celui-là qui était émouvant, bien sûr. On a parlé des larmes, de l'émotion sur le visage des amis de Jean-Paul Belmondo et de sa famille qui sont réunis dans cette cour d'honneur. Eh bien, il y avait aussi de la joie. Il y a eu ce film d'une trentaine de minutes qui a été diffusé juste avant le début de la cérémonie officielle, qui a montré ses plus belles scènes, ses plus belles répliques. Eh bien, voilà, c'était aussi une ode à la vie de Jean-Paul Belmondo. Finalement, il incarnait, c'est ce qu'a dit le président de la République, ses vies françaises.
Voilà, ses vies françaises résumées en quelques minutes par Emmanuel Macron dans un éloge funèbre assez sobre, effectivement, et peu de messages politiques, hein, voire pas du tout, si je vous comprends bien.
Oui. Simplement sur cette nécessité de se rassembler, d'être unis dans les moments difficiles
et autour des grandes figures.
Quand on veut faire passer ce message, effectivement, il est bon d'avoir une figure, une icône, et Jean-Paul Belmondo en était une évidemment éminente.
Comme celle de Jean-Paul Belmondo. Certaines personnalités sont restées à l'intérieur de la cour d'honneur des Invalides. Jack Lang en discussion avec Christophe de Chavannes, Éric Dupond-Moretti qui lui converse avec Jean Dujardin. D'autres sont en train de sortir sous vos yeux, Delphine Evenou.
Oui, Simon évoquait ses larmes et on voit effectivement ses accolades, ce besoin de se retrouver. Et parmi les acteurs peut-être les plus émus, Gilles Lellouche et Jean Dujardin. Vous savez, il y a cette bande du conservatoire, il y a un peu cette bande autour de l'équipe de Guillaume Canet avec Lellouche et Dujardin. On les a vus très émus, sécher leurs larmes, un peu comme on a entendu l'émotion dans la voix de Victor Belmondo, le petit-fils acteur de Jean-Paul Belmondo. Eh bien, on a le sentiment un peu que ses héritiers naturels de Bébel ont aussi perdu un membre de leur famille aujourd'hui.
Merci à vous, Delphine Evenou, qui nous faites vivre la sortie des personnalités petit à petit de cette cour d'honneur des Invalides. Laurent Bourdon nous a rejoint. Merci d'être là cet après-midi en compagnie de Laurent Delmas pour partager aussi cette émotion que vous avez sans doute ressentie, vous qui êtes le biographe de Jean-Paul Belmondo.
Oui, en effet, c'est une cérémonie. Alors, je ne sais pas ce qu'il en aurait pensé. On m'a demandé ce qu'il en aurait pensé. Moi, je pense qu'il aurait été ému sûrement de voir toute cette foule.
Fier,
fier aussi. Je pense que tout le début avec les sonneries ou ça, je pense qu'il aurait un petit peu souri quand même, parce qu'il a quand même tout fait pour ne pas faire l'armée, qu'il l'a rattrapé à plusieurs reprises, même pendant le tournage de Un homme et la rocca de José Giovanni. Ils ont été obligés d'interrompre le tournage parce que finalement, ce qu'il avait cru être, oui, bon, d'accord, on vous libère. Non, pas du tout. C'était pas ça. Il avait été blessé, mais quand même, il fallait qu'il continue. Bon, donc, il avait un rapport avec l'armée qui, peut-être, là, ça l'aurait un peu amusé d'avoir autant, comme ça, de militaires autour
l'armée
de lui.
L'armée qui lui a rendu hommage.
Mais c'est ça qui l'aurait amusé, justement. Oui, je pense.
On le disait à l'instant, Emmanuel Macron a été assez sobre, finalement, après la parole du petit-fils de Jean-Paul Belmondo.
Je
pense qu'il a eu raison et que effectivement Belmondo n'a jamais parlé de ses engagements politiques, peut-être à une exception près quand même, quand il se revendique anti-corrida, peut-être qu'il s'est coupé un petit peu d'une partie de, voilà, peut-être que certains de ses fans n'ont pas suivi, mais sinon politiquement, alors c'est un sujet qu'il ne développait jamais avec son ami, collègue, opposé, tout ça, Alain Delon, bien sûr, il n'avait pas les mêmes opinions, évidemment. Il a dit qu'il n'en parlait pas avec lui, bon voilà, mais il n'a jamais exposé, donc voilà, il n'avait pas, je pense que M. Macron avait effectivement bien fait de faire ce qu'il a fait.
Voilà, Emmanuel Macron, dont on a suivi, écouté l'éloge funèbre en direct sur France Inter il y a quelques minutes, tout comme des centaines d'amoureux de la figure de Jean-Paul Belmondo et de ses films. Vous êtes à leur côté, Rémi Brancato, ils sont restés, ils sont toujours là.
En train de partir pour certains, mais certains restent encore scotchés devant cet écran après avoir vu la fin de cette cérémonie et notamment cette bande originale signée Ennio Morricone qu'on a entendu ici, bande originale du professionnel sur pelouse et qui en a ému certains. On a vu des larmes sur certains visages couler. Je suis avec Samuel qui est jeune étudiant en cinéma. Comment avez-vous trouvé cette cérémonie? On a l'émotion à traverser, vous à traverser.
Ah oui, vraiment. Moi, du coup, qui ne connais pas vraiment Jean-Paul Belmondo, j'ai vraiment trouvé que les prises de parole, du coup, des petits-enfants de Jean-Paul Belmondo et d'Emmanuel Macron ont réellement montré à quel point c'était important et comment il a fait beaucoup pour l'histoire du cinéma.
C'est partie de la culture cinématographique que vous découvrez petit à petit, justement. Ça se transmet aujourd'hui.
Oui, c'est vraiment ça. Bah, moi, je connaissais pas énormément. Enfin, je le connaissais de nom, évidemment. Peut-être un grand acteur. Après, avant sa mort, je m'étais jamais vraiment intéressé à lui. Aujourd'hui, comme on a beaucoup de choses qui parlent de lui, je m'y remets. Et là, justement, je trouvais que c'était important pour moi de venir pour vraiment, je sais pas, comme donner un hommage avant de découvrir cet homme-là.
Merci. Cette œuvre qui va se transmettre encore aujourd'hui.
On a quelques petits soucis de liaison avec vous, mais on a compris l'essentiel du message. Un jeune étudiant qui va découvrir Jean-Paul Belmondo. Voilà, c'est ça aussi l'impact que peut avoir une telle cérémonie. Et puis les films qui ont été diffusés.
Il a bien de la chance.
Vous aimeriez être à sa place.
Il a bien de la chance. Il ne connaît pas À bout de souffle. Il a bien de la chance. Il ne connaît pas La sirène du Mississippi, Léon Morin prêtre et tant d'autres beaux films de Jean-Pierre Melville, par exemple.
On va parler de la relation de Jean-Paul Belmondo avec le jeune public dans quelques minutes avec vous, Laurent Bourdon, Laurent Delmas. On retourne dans la cour d'honneur des Invalides. Corinne Pellissier, la cour qui est en train de se vider.
Oui, mais vraiment tranquillement, tout doucement, on voit que les invités ont du mal à se quitter, continuent à discuter ensemble, font des allers-retours sous nos yeux en ce moment, Ariel Dombal, Thierry Frémaux qui sont en train d'échanger. On a vu il y a quelques secondes aussi Guillaume Canet, Marion Cotillard qui restaient là encore quelques instants à discuter avec les invités, tous très émus, hein, qui ont beaucoup applaudi. C'est vrai que la séquence de sortie du cercueil était particulièrement forte. Le choix de la musique, par exemple, hein, d'Ennio Morricone, du professionnel, ce film de George Lautner qui était sorti en 1981, c'était quand même un tournant dans la carrière de Jean-Paul Belmondo. C'est un moment où il voulait un petit peu se renouveler. C'était la troisième fois qu'il travaillait avec Lautner, Audiard aussi au dialogue. Bon, les flics, flics ou voyous, le guignolo, il avait envie de changer de registre, passer un polar au ton plus grave, et il incarnait donc le rôle d'un militaire de l'élite française. Donc c'est vrai que il y a une résonance particulière dans le choix de cette chanson pour terminer cet hommage ici aux Invalides.
Voilà, donc la musique du professionnel, c'est vrai, scénario de Jacques Audiard pour ce film qui a été rediffusé très récemment à la télévision française, et donc la possibilité pour des jeunes de découvrir Jean-Paul Belmondo, Laurent Bourdon, Laurent Delmas, parce que ça fait maintenant 20 ans qu'il a disparu quasiment
des grands écrans,
peu ou pas d'interviews régulières, et là toute une partie peut-être du public le découvre.
Alors va le redécouvrir, parce que vous y connaissez plus que moi, mais enfin, les jeunes ne regardent plus tellement la télévision non plus, donc moi j'ai rencontré des jeunes, effectivement, à une séance de signature qui sont arrivés devant le bouquin, et puis qui m'ont dit, mais c'est qui Jean-Paul Belmondo? Ils avaient 16-17 ans. Alors évidemment,
et là,
ils regardent...
Et là, vous dites quoi à ce moment-là?
Je t'explique un peu. Oui, aussi, bien sûr. Merci de le rappeler. Voilà. C'est évident que là, peut-être, là, il y a des plateformes, comment dit-on, là, des services VOD, là, que je ne citerai pas, si on peut les citer. Non, mais enfin bon, qui vont repasser beaucoup de films de Belmondo. Je sais que sur l'une d'entre elles, il y avait une copie du Marginal qui a été restaurée et la le nom de Belmondo avait disparu, donc ça a duré quelques semaines, et puis ils ont fait quand même la manip à l'envers, donc bon, bref, effectivement, on va redécouvrir, il y a toute une génération qui va redécouvrir, découvrir Belmondo, Bébel, on dit Bébel, mais en fait c'est Pépel, hein. Vous savez que c'est pas Bébel l'histoire, Pépel, c'est parce qu'au conservatoire, il arrivait toujours avec un vieux pull tout défraîchi, déchiré, voilà, et donc tout le monde pensait au personnage des bas-fonds de Gorky, Pépel, et donc c'était Pépel au conservatoire, ce qui est devenu après Bébel.
Bébel, donc, auquel le chef de l'État Emmanuel Macron a rendu hommage cet après-midi, ouais, à l'occasion de cet hommage national à Paris, cour d'honneur des Invalides. Et Emmanuel Macron a cité plusieurs villes de France aussi, où avait tourné Jean-Paul Belmondo. Il a pu s'illustrer dans des rues le jour ou la nuit, par exemple. On a suivi aussi cet hommage avec beaucoup d'attention à Deauville. Bonjour Bruno Barne.
Bonjour.
Vous êtes le patron du Festival du Film. Vous avez suivi, je suppose, cet hommage cet après-midi et notamment l'éloge funèbre du président de la République. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant cette dernière sortie de scène, si je puis dire, de Jean-Paul Belmondo ?
Bah écoutez, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas regardé parce qu'en tant que directeur de festival, j'étais largement occupé. Mais ce qui s'est passé, qui était assez joli, c'est lundi soir, lorsqu'on a appris la mort de Jean-Paul, on a mis deux photos et 30, même pas 30 secondes de musique du professionnel, et la salle était debout, applaudissait. C'était vraiment l'hommage du cœur. Et ce soir, c'est Claude Lelouch qui est avec nous pour présenter son dernier film. Claude Lelouch, avec qui il a tourné trois films, dont évidemment Itinéraire d'un enfant gâté, sera là pour nous parler de cet homme indispensable au cinéma. C'est un pan de cinéma qui s'écroule avec lui. C'est pas juste quelques films. Il a commencé dans les années 60. C'est énorme ce qu'on lui doit.
Et vous avez senti cette émotion, peut-être cette stupeur lundi à l'annonce de sa disparition?
Oui, une émotion énorme. Vous vous rendez compte, dans la salle du CID, vous avez 1500 personnes. On met la photo de Pierrot le Fou et on met la photo d'Itinéraire d'un enfant gâté et on met la musique du professionnel et les dans le noir. Et les trois premières notes du professionnel ont été identifiées immédiatement. Ça veut dire que les gens avaient à cœur, quelque part dans leur inconscient, de célébrer Belmondo, d'être avec lui. Belmondo, c'est un homme dont on a envie d'être le frère, le père, le fils, le metteur en scène, tout. Et ce public était d'une spontanéité. Il y avait 1500 personnes qui applaudissaient. C'était très émouvant, très très émouvant.
Bruno Barde, Laurent Delmas, c'est une question pour vous.
Mais oui, vous qui célébrez le cinéma américain à Deauville, il faut rappeler quand même combien est importante la figure de Belmondo pour un certain nombre de cinéastes américains, dont par exemple Tarantino qui a dit qu'il avait que Belmondo était un verbe, mais il faut rappeler aussi la place par exemple de À bout de souffle dans la cinéphilie américaine.
Absolument, et aussi de cinéastes moins connus du public. On oublie La sirène du Mississippi, bien de sûr. Truffaut, dans lequel il est impressionnant. On oublie Stravinsky de René, ou un film de Philippe Labro comme L'héritier. Et ces films-là ont énormément influencé les indépendants et les cinéastes américains. Bien sûr, ce n'est pas que les films de Jacques Doré ou que les films de Verneuil. Ça a été très important. Mais il y a eu De Broca avec L'homme d'Orio, il y a eu Cartouche, il y a eu tous ces films-là où Jean-Paul, et notamment dans L'héritier de Labro ou dans Stravinsky, s'est imposé comme un comédien hors pair, comme très étonnant.
Et donc, il sera au cœur des conversations ce soir à Deauville, évidemment, Bruno Barde, à l'occasion de la projection du film.
Ah ben, il est au cœur des conversations. On ne parle que de ça depuis lundi. Alors tout le monde attendait l'hommage national et beaucoup de gens de mon équipe, moi le premier, on voulait le regarder. Mais bon, on a un festival qui tourne. On a Lelouch qui vient ce soir avec une dizaine de comédiens et tous ces comédiens, que ce soit Sandrine Bonner, Elsa Silberstein, Gérard Darmon, tous les comédiens de son film vont rendre hommage à Jean-Paul. Ça va être quelque chose d'improvisé mais de très émouvant parce que tout le monde n'a que lui dans le cœur et dans le regard en ce moment.
Merci à vous Bruno Barre, directeur du Festival du film américain de Deauville, d'avoir pris quelques minutes cet après-midi donc pour vous dans un agenda qui est très chargé. On l'a bien entendu, on va parler de la relation Claude Lelouch, Jean-Paul Belmondo dans quelques minutes parce qu'on va vous proposer une interview exceptionnelle qui a été réalisée pour France Inter par Jean-Luc Hesse. C'était en 1995, c'est une pépite, Jean-Paul Belmondo ce livre. Il raconte 1000 choses sur sa vie, interview passionnante qu'on écoutera d'ici 18h à l'occasion de cette édition spéciale cet après-midi sur France Inter. Simon Le Baron, vous êtes toujours dans la cour d'honneur des Invalides qui est en train de se vider, hein, Simon ?
Oui, il reste quelques dizaines de personnes, certains restent en petits groupes, discuter, on en voit sourire, on en voit rire, se prendre dans les bras, on sent, et Jean Dujardin le disait lundi soir après la mort de Jean-Paul Belmondo, on a eu besoin de s'appeler avec les copains, avec Gilles Lelouch, avec Guillaume Canet, avec Antoine Duléry, de se raconter des anecdotes, de se rappeler des bons moments avec Jean-Paul Belmondo. On les a vus ici aussi, ces stars de cinéma qui se prenaient dans les bras, qui avaient besoin de se toucher, et bien on voit quelques-uns des Français, il y avait 1000 Français qui ont été acceptés, je dirais, c'était la jauge en tout cas dans cette cour d'honneur des Invalides, et on en voit quelques-uns, c'est vrai, qui restent ici par petits groupes pour se raconter des anecdotes sous le regard toujours rieur de Jean-Paul Belmondo. Cette photo qui est projetée sur deux écrans de part et d'autre de cette cour d'honneur des Invalides, Jean-Paul Belmondo avec cette barbe blanche, avec ce sourire séducteur, avec ses rides au coin des yeux, avec ce béret gris sur la tête. C'était une cérémonie émouvante mais pas triste, je crois, et c'est ce que souhaitait la famille. Je rappelle que le cercueil de Jean-Paul Belmondo est sorti de cette cour d'honneur des Invalides, mais il va revenir. La garde républicaine va l'amener à nouveau au centre de cette cour d'honneur afin que le public, les Français qui le souhaitent, à partir de 19h30, puissent venir rendre à leur tour leur hommage intime à Jean-Paul Belmondo.
Simon Le Baron depuis les Invalides, la cour d'honneur donc qui se vide, mais toujours du monde autour de ces Invalides sur l'esplanade. Rémi Brancato, vous êtes aux côtés de Dominique.
Oui, absolument, sur cette esplanade qui s'est vidée tout doucement. Dominique traîne encore, regarde cet écran. Dominique, vous avez été très ému par cette cérémonie.
Ah oui, c'est certain, oui. De toute façon, on revoit passer notre enfance, notre adolescence, jusque nos jours, dans les films de Bebel, on pense à tout ça.
Belmondo, c'est une présence avec laquelle on vieillissait de film en film, a dit Emmanuel Macron.
Et oui, moi j'ai appris, j'ai grandi aussi avec lui. On a l'impression de grandir à ses côtés, en famille. Et je sais que c'était quelqu'un qui était très famille également. D'ailleurs, on a fait un petit hommage ce matin à l'église de la Madeleine pour lui.
Ouais. Et à la sortie du cercueil sur cette musique d'Ennio Morricone, vous me l'avez dit, la petite larme est sortie.
Là, franchement, oui. Jusqu'à maintenant, j'avais réussi à me contenir. Bon, c'est très émouvant. Mais là, franchement, avec la musique, là, on peut pas se retenir. Et ça donne des frissons parce qu'on a l'impression qu'on voit toute sa vie défiler en quelques minutes.
Une émotion partagée par Dominique et de nombreuses personnes présentes ici aux Invalides.
Merci Rémi Brancato. Les frissons, je crois que Dominique a bien résumé ce qu'on a ressenti tous ensemble cet après-midi. Les obsèques de Jean-Paul Belmondo, je le précise, seront célébrées demain à 11h en l'église de Saint-Germain-des-Prés. Laurent Bourdon, avant qu'on écoute cette interview exceptionnelle, un mot, vous vouliez parler de la relation peut-être de Jean-Paul Belmondo avec les États-Unis.
Absolument, avec l'étranger, parce que sa carrière est franco-française, absolument. On l'aperçoit 24 secondes dans Casino Royale, aux côtés d'Ursula Andress, bien sûr, réalisé par John Huston, entre autres. Enfin, c'est tout. Il a jamais voulu aller faire carrière aux États-Unis, mais il est connu partout. Et je vous invite à relire, car on relit toujours Andrei Makine, d'origine russe, dans sa Sibérie natale. Il est académicien français maintenant, et dans Autant du fleuve amour, il dit, pour nous, la seule vraie langue de l'Occident était celle de Belmondo. Revoyant ces films 10, 15, 20 fois, nous apprîmes à distinguer sur ses lèvres les traces inaudibles de ces mots fantômes effacés par le doublage. L'envie de lui répondre était telle que le français pénétra en nous par imprégnation, sans grammaire ni explication.
Voilà, du russe Makine à l'américain Tarantino, on a une toute petite idée de l'impact de la carrière de Jean-Paul Belmondo.
France Inter, journée d'hommage à Jean-Paul Belmondo.
Alors on entend beaucoup, et c'est normal aujourd'hui, les autres parler de Jean-Paul Belmondo. On va maintenant lui donner la parole. Nous sommes en 1995, au moment de la sortie du film Les Misérables de Claude Lelouch. Belmondo y joue le rôle de Jean Valjean. Jean-Paul Belmondo est au micro France Inter de Jean-Luc Hesse. Il parle d'abord de sa relation, de son travail avec le réalisateur de ce film, Claude Lelouch.
C'est-à-dire, Claude, je lui fais toujours confiance, si vous voulez. Je ferai pas ça avec tout le monde, parce que je sais Lui va pas me donner un script, je vais pas partir en vacances avec mon script, l'étudier et me dire qu'est-ce que je vais faire là à tel moment. Il vous raconte toute la ligne du personnage, de l'histoire, des autres, qu'est-ce qui va se passer. Et puis après, quand vous allez tourner, il va vous donner une scène le matin, ou des fois la veille.
Mais qu'est-ce qui vous plaît dans un type comme ça, alors? Parce que ça doit être un petit peu angoissant.
Non, c'est pas angoissant, justement. C'est excitant parce que bon, ça serait angoissant s'il n'avait pas, lui, il a un script, hein, contrairement à ce que les gens croient. Il ne vient pas le matin en se disant, tiens, on va faire ça. Son script est bien écrit, il y a des dialogues bien écrits. Par exemple, vous jouez votre scène avec les bons dialogues qu'il vous a donnés, puis tout d'un coup, il va vous dire, tiens, faites-moi une un peu plus folle. Alors bon, on joue un peu avec vous, puis après, il dit, maintenant, je laisse tourner la caméra, dites ce que vous avez envie de dire à la fin. Donc, on joue la scène et on continue dans nos personnages, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire à ce moment-là. Mmh. Et là-dedans, après, lui, il va faire le montage, il va choisir ce qui est bon. Bon, et s'il n'y a rien de bon, il ne le prend pas. Et ce qu'il y a bien, il est couvert, puisqu'il a la scène vraiment écrite. Mmh. Et si vous voulez, ce qui est excitant, c'est d'arriver le matin en se disant, qu'est-ce qui va m'arriver? En plus, qu'est-ce qui va me demander? Moi, il y a deux personnages que j'ai connus comme ça, qui ont un enthousiasme très communicatif, c'est Robert Hossein. C'est quand j'ai théâtre, les pièces que j'ai fait avec lui, c'est des types qui soulèvent des montagnes, parce qu'ils ont un enthousiasme réel. Il y a des gens qui vous jouent les enthousiastes. Je veux dire, ils font semblant, allez, haha, tout va bien. Mais on se dit dedans, bon, au fond, ils ne sont pas. Eux, ils sont vraiment, le louche, il vit avec sa caméra, hein, complètement, et vraiment. Il n'aime que le cinéma toute la journée, 24 heures sur 24. Il est là-dedans sans arrêt. Mmh. Alors pour nous, ça galvanise. Hein.
Vous disiez qu'il y en avait un deuxième?
Robert Hossein.
Oui, Robert Hossein. Je pensais à Godard. On ne va pas comparer Godard.
Non, mais vous n'avez pas tort. Si, parce que ça, c'est deux. Je les compare. Alors que, comme vous dites, il n'y a pas à les comparer. Mais la manière de travailler, c'est pareil. Quand j'ai tourné avec Godard, c'était pareil. Il arrivait avec son petit cahier le matin. Et on avait l'impression que rien n'était préparé, puisque. D'ailleurs, au début, où on tournait à bout de souffle, il me disait, rentre dans une cabine téléphonique. Je rentrais en cabine téléphonique et je dis, qu'est-ce que je dis? Tu dis ce que tu veux. Et lui, il était à l'extérieur. Alors moi, j'ai mon téléphone et je dis, t'as un type qui me demande de rentrer dans une cabine, je parle, je dis n'importe quoi. Bon. On tournait et puis il faisait deux, trois plans, il me disait, j'ai plus d'idées. On rentrait chez nous. Alors, bon, le producteur sautait au plafond. Et puis, ça, quelques jours comme ça. Puis après, bon, il y a eu la fameuse scène dans l'hôtel avec Jean Siber. Et là, il avait écrit. Et en même temps, lui aussi, comme Lelouch, tout d'un coup, pendant que vous tourniez, vous disiez, dites-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça, fais ci, fais ça. Bon, alors c'est une autre école, c'est un... Bon, moi, j'arrivais du théâtre, où il y a une rigueur, il faut savoir son texte, il faut être bien précis. Et là, d'un coup, ça partait comme ça, mais dans une improvisation bien réglée, finalement. Ce qui n'est pas bon, et je crois que peut-être beaucoup de cinéastes, après, se sont trompés derrière eux, parce qu'ils ont voulu... improviser.
Ils ont cru que c'était facile.
Ouais. Voilà, mais ils improvisaient sur rien. Mmh. Vous savez, c'est... je pense qu'autrefois, la Commedia dell'arte, c'était pareil. Ils avaient un thème très fort et les types allaient dessus. Et ce qui fait que si l'invention n'était pas débordante, la trame, elle était là quand même. Mmh.
Mais Jean-Paul Belmondo, est-ce que ça vous a... Enfin, vous avez connu ça avec Godard, avec Lelouch. Est-ce que ça doit angoisser quand même certains réalisateurs quand ils vous voient arriver relax, comme ça, bonne mine et tout, le sourire?
Oui, ça énerve des fois. Ouais. Mais non. Non, mais vous savez, c'est curieux. C'est vrai que je crois qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de manière de vous, je crois qu'on est relaxé. Par exemple, bon, moi, quand j'étais au conservatoire, on m'a reproché beaucoup ma décontraction. C'est pour ça que je dis que ça a énervé.
Vous étiez plus que décontracté, vous, quand même.
Voilà.
Parce que c'est vous qui avez fait un bras d'honneur.
C'est moi qui ai fait un bras d'honneur au final. Ouais. Mais à l'époque, vous savez, aujourd'hui, ça peut faire rire. Parce que moi, j'ai passé les fois par une scapin, j'avais les mains dans les poches. Aujourd'hui, quand vous voyez comment on joue les spectacles, main dans les poches, c'est de la rigolade, c'est rien. Mais à l'époque, bon, il n'y avait pas une rigueur. Et alors, ça les choquait un petit peu. Bon, puis dans la vie, je sautais du premier balcon dans les rideaux, je faisais crouler les rideaux. J'étais pris pour un peu le roi de la décontraction.
Mais pourquoi vous étiez comme ça?
Parce que c'est ma nature, c'était ma nature. J'aimais m'amuser. Si vous voulez, pendant deux heures, quand j'étais assis dans une classe, je bouillonnais. Il fallait qu'il se passe quelque chose. Alors, j'avais envie... Si vous voulez... Et je ne renie pas le conservatoire parce que ça m'a apporté beaucoup et j'ai eu la chance de connaître des gens formidables comme Georges Leroy, qui était un professeur extraordinaire, qui a si bien Marielle, Rochefort, Vernet, ça, tous nos amis, nous a amené des choses intérieures formidables. Il vous disait des choses très très justes. Puis il y avait Dux, qui était un grand acteur, mais qui nous comprenait pas bien, disons. Donc, alors il avait cette espèce de rigueur, il voulait nous casser. Évidemment, il n'arrivait pas à nous casser parce que plus il voulait nous casser, plus on se révoltait. Mais je crois qu'il faut pouvoir se révolter, justement.
Ce que j'essayais de comprendre, c'est pourquoi un type qui est jeune, qui veut jouer au théâtre, c'est sa vie, c'est son truc, et puis il prend quand même tous les risques pour faire en sorte de se faire virer, c'est quand même bizarre.
Oui, non, c'est pas bizarre, parce que si vous voulez, On rêvait de rentrer à la Comédie Française, par exemple. Voilà, moi, j'allais, j'ai été stagiaire de la Comédie Française. Je me suis fait foutre à pied 6 mois aussi, parce que j'avais le diable au corps. Mais parce que bon, on m'avait dit, j'étais dans Fantasio et j'avais une réplique, de réplique à dire, je faisais un croque-mort. Et on me disait, j'arrivais avec mon bidule, avec un autre devant, on me disait, qui enterrez-vous? Et je devais répondre, nous enterrons Saint-Jean, sa place est vacante, vous pouvez la prendre si vous voulez. Et le metteur en scène me dit, monsieur, vous êtes acteur? Je dis, oui, j'ai acteur. Alors, un temps, imbécile, un temps, il dit, si vous voulez. Et alors, la générale est arrivée, et le spectacle ne se passait pas très bien, malheureusement, pour ceux qui jouaient en vedette. Et moi, je suis arrivé avec mon truc, et, ah, qui enterrez-vous? J'ai dit, nous enterrons Saint-Jean, sa place est vacante, vous pouvez la prendre. Je suis sorti, et j'ai repassé juste la tête, et j'ai fait, si vous voulez. Alors, j'ai fait un tabac comique. Évidemment, j'ai été appelé par Pierre Descages, et je me suis retrouvé 6 mois à pied. Ma prestation s'est arrêtée là. Mais c'était en même temps une envie d'être là. J'admirais ces gens-là que je pouvais chahuter, finalement. Mais je les admirais énormément.
Mais vous avez eu du pot de rencontrer Godard, quand même, non? Parce que
ah, oui.
Tout aurait pu basculer mal.
Oui, tout aurait pu basculer mal. Et si vous voulez... Je pense avec Godard, ça a été une rencontre formidable, parce que j'ai gagné, en tout cas, énormément de temps dans ma carrière. Parce que du jour où j'ai fait à bout de souffle, ça a été comme dans les romans de Médinette, quoi. Mm-hmm. Le téléphone a pu arrêter de sonner. Je faisais 6-7 films par an. J'allais en Italie, je me retrouvais avec Ginello Brigida, Sofia Loren, Claudia Cardinale. Quand vous êtes un petit acteur qui jouait dans des théâtres... modestement, disons, bon, c'est le rêve. Hein. Mm-hmm. J'ai vraiment eu un conte de fées.
Mais ça vous a semblé... On vous voit toujours plutôt de bonne humeur, enfin, plutôt heureux de vivre. Et ça vous a semblé normal, quand même, cet enchaînement de choses?
Non, pas normal. Vous savez, je pense pas à ça. Je suis d'une nature optimiste. Mais si vous m'aviez dit un jour, et je fais pas le modeste, si vous m'aviez dit un jour que je serais une vedette de cinéma, je vous aurais pas cru. D'ailleurs, pas que moi, hein, mes amis, Marielle, Rochefort, si vous nous aviez dit, vous allez devenir des vedettes du cinéma, on n'aurait pas cru. Notre but, c'était de réussir au théâtre, d'essayer de jouer des beaux rôles au théâtre. Bon, quand j'ai eu la chance de jouer avec Pierre Brasseur, le valet avec Galabru, tous les deux, déjà, pour moi, c'était un échelon formidable. J'ai joué le valet auprès de Brasseur, j'étais heureux comme tout.
Vous êtes resté copain avec tous ces gens-là,
ah,
Galabru,
oui.
Girardot.
Ah oui, oui, toujours, ben, parce qu'on a... Galabru, Girardot, on a écumé aussi la province à l'époque, à Barentin, à Nouville, Ville-Ménil, on allait jouer les classiques, j'ai joué le médecin, Thomas Diafoiru, j'ai joué Mascari, j'ai joué La Flèche, Goldoni aussi, on allait jouer partout. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la télévision, vous comprenez, on pouvait, des troupes comme ça qui arrivaient, ça intéressait les gens, puis ça vous apprenait bien votre métier aussi, parce qu'il y avait des endroits où on jouait, puis les mômes, ils vous foutaient des fléchettes dans la gueule, ils soufflaient à la sarbacane, on se retrouvait dans la perruque. Ça rend modeste, croyez-moi. C'est pour ça qu'après, quand il vous arrive des belles choses, on est modeste, on se dit, bon... Ouais. Ça relative, si vous voulez, le métier d'acteur.
Tout est relatif, enfin, en ce qui vous concerne particulièrement, puisque je crois que c'est René Clair, hein, qui disait que vous aviez une sale gueule, vous n'arrivez pas à faire du cinéma.
C'est ça, je me suis très bien entendu avec Pierre Brasseur, et ça c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie, parce que Brasseur était un acteur que j'admirais au plus haut point, et j'ai eu la chance de jouer cette pièce avec lui presque un an, et il m'avait pris en amitié, et bon, je sortais avec lui le soir, on allait à Pigalle, et là, bon, moi j'avais eu une bagarre dans la rue qui avait été... J'avais été mis au commissariat de Saint-Germain et c'était Brasseur qui nous avait fait sortir. Et alors après, il pensait que j'étais Marcel Cerdan ou Robinson. Et partout où on allait, quand il avait un coup dans le nez, il finissait par insulter un type. Il me dit, allez, vas-y. Alors je me trouvais avec des colosses. Et je dis, c'est Monsieur Brasseur. Il me dit, j'en ai rien à foutre. Il a pas d'abou.
Vous étiez comme ça, vous étiez...
Ah oui, quand j'étais jeune, j'étais bagarreur. Mais ça me plaisait. Je veux dire, bon, avec l'âge, on se calme, heureusement.
Ça vous est passé.
Oui, oui, oui. Mais si vous voulez, on avait un plein de vie, quoi. Puis c'était une belle époque. Je veux dire, bon, ça fait dur. Pigalle, c'était Pigalle aussi. C'était très marrant. C'était folklorique. C'était Léal. C'était tout ce mélange. Donc les nuits étaient passionnantes. Mmh. J'étais sportif et je suis beaucoup sorti la nuit, quoi. Mmh.
C'est vrai qu'on a aussi cette impression-là chez vous, c'est qu'il y a eu une fête. J'allais dire assez sympathique, quoi. Rien de glauque, mais vous vous êtes bien marré.
Non, c'était bien marré. Voilà. C'était le plaisir de s'amuser, on peut dire de croquer la vie à belles dents. Hein. Mmh. Et si vous voulez, quand j'ai eu la chance de faire le film de Godard, il y a la chance et il faut aussi être prêt, c'est conventionnel de dire, mais j'avais beaucoup travaillé, parce qu'au conservatoire, je faisais beaucoup l'idiot, mais je travaillais aussi beaucoup, parce que, bon, Dux me révoltait contre lui, mais je savais qu'il avait raison de ce qu'il me disait. Non, alors, je travaillais ma diction, je travaillais ma voix, et tout ça m'a servi après quand j'ai joué King, quand j'ai joué Cyrano. Mmh. Donc, mais en même temps, il y avait le côté studieux en cachette et s'éclater aussi de la vie, que je pensais que ces gens étaient trop sérieux.
Et l'image que tous ces gens, parce que bon, je ne sais pas combien vous avez tourné de films, plus de 60, 70
Oui, presque 70, pas,
ouais. Ouais. Donc il y a eu plein de réalisateurs. Ces gens-là, ils vous ont regardé comment? Enfin, est-ce qu'ils ont toujours su qui vous étiez quand ils vous utilisaient? Je pense à Léon Morin-Prêtre, par exemple. C'était pas évident, quand même, de vous voir en curton.
Surtout à l'époque, pas du tout, oui. Mais vous savez, ça c'est Melville. Et ça, c'est drôle parce que je tournais en Italie. Et bon, vous savez, moi, par exemple, mon ami Briali, lui, il était vraiment avec la Nouvelle Vague. Moi, j'étais employé par la Nouvelle Vague, par Jean-Luc, et après par Chabrol. Mais je ne les fréquentais pas, disons, à l'époque. Alors, le cahier du cinéma, ça, je ne savais même pas que ça existait. Moi, j'étais plus sur le boulevard ou à la Comédie Française, aller voir les choses, ou aller voir Jean-Jacques au Palais Royal. C'était plus mon univers que ça. Et donc Melville, qui avait déjà fait Bob le Flambeur, qui était un très beau film, et moi je n'avais pas vu, je ne connaissais pas Melville. Et quand elle est arrivée avec son seton, ses lunettes, à 6h ou 7h du matin, à Formia, sous déjà un soleil terrible, et il m'a dit, voilà, j'aimerais que vous jouiez un curé. Alors je lui ai dit non. Je lui ai dit, vous ne voyez qu'une soutane et tout. Et pas question. Alors il m'a dit, bah, écoutez, à Paris, on va faire un... Je vous mets la soutane, on vous filme, et votre femme, la mère des enfants à l'époque, vos amis, et tout ça, on se réunit après, on dira si vous allez... Vous marcherez, c'est tout. Alors évidemment, j'ai mis la soutane, j'ai marché, évidemment tout le monde a dit « Ah oh, oui, c'est formidable !» Moi, je n'étais pas convaincu, pour dire la vérité. Bon, je l'ai fait, parce que l'histoire, elle était belle. Et puis j'ai rencontré un prêtre qui était formidable, qui s'appelait l'abbé Le Poutre, qui était le conseiller, disons, technique. Alors, dès que Melville me disait des fois, bon, non, mais un curé fait passif, et l'abbé, il disait, ah non, Belmondo, c'est très bien ce qu'il fait, c'est très bien. C'est pas... Alors, ça s'est très bien passé. Il était, si vous voulez, quand vous parlez, il était choqué aussi, parce qu'à l'époque, j'avais une AC Cobra, et...
C'est une voiture, ça.
Hein? C'est une voiture. Oui, c'est une voiture. Alors, je me mettais en curé en soutane, et quand j'arrivais, j'étais râpé au feu rouge. Et quand il me voyait arriver comme ça, Melville, il était atterré. Parce que je disais,
mais j'ai dit, mais moi, j'ai... Vous que vous en foutiez.
Oui, voilà. Si vous voulez, les gens ont le tort de dire que je m'en foutais. Je m'en foutais vraiment bas. La preuve, je pense d'avoir bien joué. Je crois qu'on ne peut pas juger la technique des gens. Vous avez des acteurs, ils se prennent la tête pendant 2 heures. Et ben, ils ont besoin de ça. Il ne faut pas se moquer d'eux. Si vous avez besoin de faire l'idiot, il faut vous laisser faire. Mais si vous faites l'idiot, vous n'êtes pas pris au sérieux. C'est ça le drame. Au conservatoire, je n'étais pas pris au sérieux parce que j'ai l'idiot. Et quand je suis rentré là-dedans, les types se disent, ah, c'est un genre foutis, il s'en fout. Vous êtes toujours pris plus au sérieux, évidemment, si vous prenez la tête entre deux mains et vous dites, ah, j'ai joué un prêtre, j'ai mis 6 mois à me sortir de ce rôle, on dit, oh là là, oui, formidable. Si vous dites, moi, j'accroche le soir mon truc et c'est fini. Bon, quand je vais Cyrano, je balançais mon nez dans la salle, mon chapeau, je l'accrochais au, puis je sortais dîner, il n'y avait plus de Cyrano. C'est de Cyrano dessus quand je suis sur scène. Et le prêtre, je l'étais quand il disait moteur. J'ai pas besoin d'être le prêtre toute la journée.
Mais Jean-Paul Belmondo, ça vous épate pas d'avoir réussi à coïncider avec deux générations d'hommes?
Mais si, mais vous savez, ça me fait énormément plaisir quand je rencontre des gens très jeunes, même maintenant, qui me parlent, qui me parlent de mon travail et qui sont contents de ce que je fais. Ça vous touche énormément. Puis vous savez, il y a cette chose étrange maintenant avec la télévision. Avant, les films, ils mouraient un petit peu quand même, parce que après, ça passait pour des spectateurs spécialisés. Vous alliez au Champollion, vous alliez à la Cinémathèque. Aujourd'hui, des films, vous avez fait il y a 20 ans, ils repassent, et des jeunes, des enfants, même les voix. Les enfants, moi, ils parlent de l'homme d'Oriot. Bon, s'il n'y avait pas la télé et toutes ces choses-là, l'homme d'Oriot, qu'est-ce qui en parlerait? Donc, ça vous permet de... Mais ce qui me fait plaisir, c'est que de voir des jeunes me considèrent pas comme un vieux crouton, ou dire, tiens, ah oui, autrefois, il paraît que vous étiez bien. Ils me parlent comme aujourd'hui, si je suis toujours... je dirais pas leur âge, mais je suis pas le grand-père pour eux, quoi. Voilà. Et ça me fait très, très plaisir.
Il y a tout de même des choses qui changent chez un homme, hein.
Bien
des
sûr.
Années, il y a l'expérience, la maturité, voilà. Il y a plein de trucs.
Et le physique
la vie,
change aussi automatiquement.
Ouais, enfin, ça va encore pas mal.
Oui. Bonne mine. Je pourrais plus jouer l'homme de Rio, quand même.
On attend savoir. Mais, est-ce que ça vous a parfois donné des petits regrets, par exemple, ou alors des envies qui viennent maintenant de se dire voilà, moi je, bon, Léon Morin Prêtre par exemple, c'est un bon exemple, c'était un personnage très intérieur, c'est pas un,
oui,
c'est pas de cascade, c'est intellectuel, c'est cérébral. Est-ce que vous vous dites parfois j'aimerais bien montrer plus encore ce que je sais faire?
Oui, mais bien sûr, mais je crois que dans une vie d'acteur, vous avez plusieurs périodes, je dirais prétentieusement, moi mes périodes elles sont arrivées au bon moment. Je suis avec la nouvelle vague, j'ai fait ça. Après, il y a eu cette période cascade et la période comédie qui m'ont rendu très populaire et qui m'ont permis, cette popularité m'a permis de faire des Stavisky, la Sirène du Mississippi, et après de jouer Keane, qui était quand même pas évident de rentrer dans Keane et de bourrer la salle. Si j'avais fait que des Léon Morin Prêtre, je pense que ça n'aurait pas été bon. Mm-hmm. Pas plus que si j'avais fait que le Guignolo, ça aurait pas été bon non plus. C'est essayer. Moi, j'ai été d'une époque, moi et mes camarades, d'une époque où vous pouviez tourner avec Melville, avec Godard, avec Truffaut, avec Verneuil, Melville, Mal. Il y avait un mélange extraordinaire. On passait dans tous les genres. Et je crois que c'est ça, le vrai cinéma. Donc on a besoin, et je crois que vous savez, le spectateur, faut pas oublier ça, le spectateur, il a besoin de tout. Un soir, il a envie de penser, de pleurer, un soir, il a envie de dire, tiens, je voudrais bien aller rigoler. Et un bon cinéma, italien ou français ou américain, c'est quand ils peuvent vous donner toute cette palette. Vous pouvez choisir. C'est bien, c'est pas bon une seule couleur, quoi.
Non, là, il faut plusieurs couleurs, nous dit Jean-Paul Belmondo. Il y a le bleu de Pierrot le Fou et puis il y a le caleçon à pois rouge. aussi du Guignolo, interview exceptionnelle, oui, réalisée par Jean-Luc Hesse, 1995. Vous retrouvez cette interview sur franceinfo.fr dans son intégralité, sur la franceinter.fr et sur l'application Radio France. Laurent Delmas, tout est résumé.
Merveilleux entretien, parce que effectivement, c'est un monument de sincérité et de franchise. On comprend finalement comme ça aussi l'adhésion des spectateurs et des spectatrices à Jean-Paul Belmondo, parce que il est brut, il y va, il raconte tout, il dit son plaisir, il dit sa modestie, et je pense vraiment que ça dit Belmondo, mais comme rarement on peut l'avoir entendu. Ouais, mais je trouve cet entretien formidable.
Qui enterrons-nous aujourd'hui au moment de reprendre son jeu, corriger son jeu, voilà. Mais je pense que un apprenti acteur ou comédien qui écoute ça aujourd'hui, il trouve un viatique, c'est un guide.
Tout à fait, je pense, oui, il y a de la transmission là-dedans, et de façon très simple, avec des paroles très simples, sans se prendre la tête entre guillemets, mais en disant des choses tout à fait essentielles sur le métier d'acteur et sur le jeu et sur le bonheur du jeu.
Voilà, le guide Jean-Paul Belmondo, au-delà même de sa disparition, il a guidé des générations d'acteurs. Elles étaient rassemblées cet après-midi dans cette cour d'honneur des Invalides à l'occasion de cette cérémonie hommage que vous avez pu suivre sur France Inter, et notamment dans l'assistance, l'un de nos grands acteurs, Jean Dujardin, qui s'est exprimé devant les journalistes à l'issue de cet hommage.
Je ne sais pas si vous avez vu, mais la synchronicité en fait, c'est-à-dire que le soleil a disparu quand Jean-Paul est parti. Jean-Paul, c'était ça, il prenait le soleil pour le rendre, c'était le sourire de la France. Il va falloir qu'on y pense et puis qu'on l'accroche, tous, voilà, qu'on s'aime un peu plus maintenant. On est dans nos pensées, dans ces moments-là, on pense à lui, on pense à tous ses films, bien sûr, mais il a toujours été là, le public, enfin, quand on passe un peu de temps avec Jean-Paul, quand on va au restaurant, partout, on voit, il y a tellement, tellement d'amour, l'irradie, comme disait Victor, c'est fou. C'est un médicament, hein, Jean-Paul Belmondo, il fait du bien.
Le président a justement dit que si les Français l'aimaient tant, c'est parce qu'il nous ressemblait, finalement, mais en mieux. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il avait une gestion du stress qui était incroyable. Et puis, parce qu'il emmerdait jamais les gens avec ses tourments, avec ses angoisses, déjà dans la vie. Et puis parce que c'est pas très sérieux, mine de rien, un tournage, c'est une fête. C'est fait aussi pour s'amuser, c'est quand même des gens qui en filment d'autres. Je pense qu'il avait cette vision du métier qui est à la fois très simple. Il nous a toujours dit très simplement, amuse-toi, amusez-vous. Je pense que c'est le meilleur des conseils, sans théorie.
Jean Dujardin, donc, qui s'exprimait il y a quelques minutes à l'issue de cette cérémonie d'hommage, l'un des nombreux visages présents cet après-midi, tout comme celui de Rachid Ferrache qu'on a vu, c'est lui qui jouait le jeune garçon dans L'As des As, tout jeune à l'époque, et qu'on a eu plaisir à retrouver donc cet après-midi à l'occasion de cet hommage.
C'est vous avez vu, Dujardin milite pour le remboursement par la Sécu de Belmondo.
Et peut-être
du
cinéma et
des
places de cinéma. C'est vrai, ça fait partie des témoignages que j'ai entendus aussi ces derniers jours, des amoureux de Jean-Paul Belmondo, de gens qui disaient il m'a permis de vivre mieux, un peu plus légèrement. C'est au moment de ces hommages aussi qu'on se rend compte de l'importance que peuvent avoir des artistes et des comédiens dans la vie des Français.
Il y a de la vitamine C dans cet acteur-là.
Voilà, Jean-Paul Belmondo, le soleil ne s'éteint pas. Ça, ce sont les mots de Victor Belmondo, l'un de ses petits-enfants qui s'est exprimé cet après-midi, effectivement, dans ce soleil couchant à l'hôtel des Invalides. Merci Laurent Delmas. On vous retrouve à 10h.
Avec Christine Masson.
Avec on Christine Masson. Il sera, je suppose, question sans doute une nouvelle fois.
Avec nos invités, notamment Mathieu Amalric et Nadav Lapide, qui nous parleront de Jean-Paul Belmondo
entre 10h et 11h samedi. Merci également à toutes les équipes de France Inter mobilisées cet après-midi pour cette émission spéciale.
Si Dieu existe, ça c'est une question très sérieuse, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire à vous, Jean-Paul Belmondo?
Eh bien écoutez, moi je suis un optimiste, alors j'aimerais qu'ils me disent, écoutez, je me suis trompé, descendez.